Pendant 20 séances, on fait circuler une feuille, comme d'habitude, pour ceux qui ne reçoivent pas encore les invitations par mail, pour qu'ils puissent laisser leurs coordonnées et les adresses physiques pour que vous voulez recevoir le petit bulletin de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Je laisse la parole au père de Binière.
Est-ce que vous m'entendez si je parle assis? Ça va? Oui, c'est un peu hésitant quand même. Non? Est-ce que vous m'entendez près de l'escalier là? Ouais, ça va pour l'instant, non? Je crois qu'il vaut mieux que je me lève. Bon, je crois que c'est mieux debout, non? Si j'arrive à me lever. Je vais décaler un peu. Voilà. Et là, c'est mieux comme ça? C'est connu, rien ne vaut la chair. Hein. Sauf qu'on ne peut pas la mettre dans un café. Non, on remercie bien les gens du café de leur patience. On leur donne quelques consommateurs, mais enfin, quelques soucis aussi. Alors donc, on a essayé, c'est un peu une gageure, hein, de faire une série sur les dons du Saint-Esprit parmi les effluves de la bière et de ce que vous pouvez boire. Enfin, il y a un certain nombre de membres de la Ligue anti-alcoolique, donc je vois que vous n'êtes pas tous roulés sous la table. Alors, c'est une chose très intéressante que cette théologie des dons du Saint-Esprit. Normalement, ça viendrait plutôt après le... Vous savez qu'on a déjà fait 3 ans sur le credo, et puis on a fait une année, une 4e année, on a parlé de...
Notre Père.
Du Notre Père, voilà. Et alors, ce qui viendrait logiquement, dans l'ordre des parties du catéchisme, ce serait plutôt les commandements. Mais la série n'est pas prête, hein. Donc ça sera prête l'année prochaine. Et donc, on va tout de suite parler des dons du Saint-Esprit, qui sont une partie de la théologie qui est assez peu connue. Et qui a été un peu remis à l'honneur par des gens comme Ambroise Gardeil, donc un dominicain qui est mort dans le premier tiers du XXe siècle, qui est un homme tout à fait remarquable, qui a fait en particulier, qui a consacré beaucoup, qui a été un des éléments essentiels de ce qu'on appelait le renouveau thomiste au XXe siècle. Hein. Il faut savoir que dans l'Église, les papes ont souvent appelé un retour à saint Thomas, qui a mis du temps à porter des fruits. Léon XIII a fait une grande encyclique dans les années 1870, quelque chose comme ça, et 15 ou par là, ou 14, je ne me souviens plus très bien. Et cette encyclique a fini par porter des fruits. Je dirais que l'Église de 1920 à 1960 a vécu en grande partie du renouveau thomiste, et c'était assez réussi. Moi, j'ai eu l'occasion donc de connaître des prêtres et des théologiens formés à cette école, et c'est pas mal. Et alors, à mon avis, l'aggiornamento, le vrai, consistait, si vous voulez, à se dynamiser un peu dans certaines méthodes apostoliques en gardant ce grand héritage que malheureusement on a un petit peu perdu avec la crise qui s'est suivie. Mais j'espère que l'encyclique du pape Fides et Ratio, donc de 98 de Jean-Paul II, va relancer cet intérêt pour la pensée en profondeur qui est celle de saint Thomas. Alors saint Thomas est à la fois un métaphysicien et un spirituel, et donc il s'est beaucoup à pencher sur... c'est sympa ça, c'est pour que je m'assoie dessus ou que je monte? Alors ça va faire une chaise de plus pour quelqu'un ça. Voilà. Formidable. Il s'est beaucoup penché sur cette théologie des dons du Saint-Esprit qui avait déjà évidemment été un petit peu mûri par les pères de l'Église, mais comme souvent les grandes choses, il y a d'abord l'Évangile, ensuite une période très fondamentale qu'on appelle la période de la patristique, qui va en gros des premiers pères apologètes du IIe siècle jusqu'à Saint-Augustin, et même certains disent jusqu'à Saint-Bernard, qui est une période où les grands docteurs avaient un charisme particulier, c'était à la fois des théologiens, des orateurs, et des gens qui étaient au contact de la civilisation grecque et en même temps de la pensée hébraïque, comme Saint-Jérôme qui parlait l'hébreu mieux que moi l'espagnol. Et donc c'était quelqu'un de très intéressant. Et alors ces gens-là ont vraiment fait le fond commun de l'Église, mais c'était encore un peu indistinct parce que ça jaillissait en face des erreurs, mais ça partait de gens qui avaient connu les successeurs des apôtres, comme par exemple saint Ignace avait très probablement été éduqué par saint Polycarpe, disciple de saint Jean. Et donc après cette période très riche, il y a eu une période plus trouble avec les invasions, et ensuite le retour de la pensée grecque par les Arabes et les Juifs. On est rentré en contact avec eux en nouveau au moment des croisades et par différents événements. Et il y a eu tout un renouveau extraordinaire au 11e, 12e et 13e siècle qui constitue des sommets dans la pensée de l'Église avec des gens en particulier comme saint Albert, saint Bonaventure et saint Thomas d'Aquin. Et donc saint Thomas a essayé de bien réfléchir quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre sanctification. Et le père Gardeil a beaucoup écrit là-dessus, des articles scientifiques, mais aussi une retraite qu'il a fait pour des religieuses et que nous avons réédité récemment dans une petite collection classique spirituelle. Donc vous pouvez même la commander sur notre site, vous voyez. Qu'est-ce qu'on est moderne, hein, c'est fou. Hein. Donc en appuyant sur un certain nombre de boutons, vous pouvez commander ce truc-là, et ça se lit facilement. C'est une retraite faite à des religieuses, c'est très plein de cœur, d'onction. Parce que le propre de la théologie des dons, c'est que c'est quelque chose d'affectif, vous voyez. On a, peut-être que certains trouvaient que j'étais un peu trop spéculatif, mais enfin, c'est le charisme aussi de Saint Thomas, de Saint Albert, et je comprends qu'on ne soit pas attiré. Parce qu'évidemment, nous avons, nous, les Dominicains, on a tendance, les fils Saint-Dominique, à essayer de comprendre les tenants et aboutissants, pourquoi des choses, pour aimer davantage. Je te dis Catherine de Sienne, hein. L'amour conduit à chercher la vérité, et quand on a mieux connu, on aime davantage. Donc, malheur, anathème à la connaissance qui ne se tourne pas à aimer, comme dit Bossuet, vous avez reconnu dans votre culture immense, tout de suite, cette citation très connue de notre, un de nos plus grands prédicateurs français. Anathème à l'amour, à la science qui ne se tourne pas à aimer. Et de fait, la théologie doit se tourner à aimer, et elle le fait spécialement dans la théologie des dons du Saint-Esprit, qui développe les conséquences de l'habitation de la Trinité dans notre âme. Donc les dons du Saint-Esprit, c'est une chose que possèdent les chrétiens en état de grâce. Enfin, tous les gens en état de grâce, mais là on parle spécialement des chrétiens, parce que donc, ils sont baptisés par le baptême sacramentel, et donc on sait que, on connaît mieux, disons, les données, qu'il y a des gens qui sont en état de grâce en dehors de l'appartenance visible à l'Église, mais on ne sait pas trop, enfin c'est plus aléatoire. Donc le baptême nous donne le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre âme avec toutes les vertus, spécialement la foi, l'espérance et la charité. Et lorsqu'on a ça, lorsqu'on a la foi, l'espérance et la charité, on a aussi d'autres capacités d'action, des vertus morales, et pour perfectionner le tout, on a les dons du Saint-Esprit. Mais dès qu'on perd la charité, on perd les dons du Saint-Esprit. Donc vous voyez, c'est vraiment la théologie du chrétien en état de grâce. Et c'est ce que déploie la Trinité dans notre âme. Alors on dit que c'est les dons du Saint-Esprit parce que l'œuvre de la sanctification est confiée en quelque sorte au Saint-Esprit, comme l'œuvre de la rédemption est confiée au Verbe incarné. Le Christ s'est incarné, donc il a opéré notre rédemption sur la croix, et donc c'est facile de reconnaître que c'est lui qui est chargé de ça. Mais le Saint-Esprit, il est envoyé par le Christ, comme il le dit lui-même à ses apôtres, pour nous aider à vivre le message de l'Évangile que nous avons reçu du Christ et qui ensuite est expliqué et développé par les pères de l'Église et précisé par ce qu'on appelle le magistère, à savoir le pape et les évêques en communion réelle avec lui, soit tous ensemble prêchant dans leur diocèse la même chose, soit dans un concile œcuménique. Ces gens-là ont pour tâche de nous donner et de nous préciser l'Évangile sur les points où on a besoin de voir plus clairement les conséquences. Hein. Donc il y a une très belle... ce qu'a rappelé le Concile Vatican II dans la partie sur la constitution sur la révélation, il y a trois éléments essentiels qui sont l'Évangile, l'Écriture, donc il faut le lire, il faut l'aimer. Il y a la tradition qui est le fait que tout ça est véhiculé par des hommes, par la pensée des hommes, par la liturgie, par la contemplation des chrétiens, des contemplatifs, des moines, de tout le monde, par tout ça, par les théologiens. Ça nous est transmis au travers des siècles avec tout un enrichissement de réflexion, et puis le magistère qui nous dit voilà le vrai sens de l'Écriture et voilà le vrai sens de la tradition. Un exemple typique, c'est la définition du dogme de l'Assomption par Pie XII, qui a donc défini ce qui était déjà dans le trésor de la tradition de l'Église. Mais il a dit voilà, ça s'y trouve vraiment et voilà pourquoi. Donc vous voyez, c'est très beau de voir qu'on a une grande richesse pour les sources de la vérité. Mais évidemment, ces sources de la vérité sont pour nous conduire à l'amour. Parce qu'en christianisme, le plus important, c'est l'union avec Dieu par le cœur, par le fond de l'âme, donc par l'habitation du Saint-Esprit, mais concrètement, dans nos puissances d'action, la volonté est divinisée par la charité. Et donc, comme nous avons ça, nous avons aussi des capacités d'action tout à fait particulières qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Et donc, sur l'ensemble, si vous voulez, de nos capacités d'action, vous avez un registre particulier qui est celui où le Saint-Esprit nous prend par la main pour nous faire faire les choses qu'on a déjà appris dans le catéchisme et qu'on sait devoir faire quand on a lu le compendium, comme vous l'avez tous fait, ou comme vous êtes en train de faire, je le vois dans vos yeux, hein, vous en êtes à la page 12, peut-être, des 178 pages, enfin, j'espère que ça va avancer, parce que le caté, c'est qu'une impulsion, dans le métro, il ne faut pas uniquement lire Libé, quoi, hein. ou métro, enfin, un truc gratuit qu'on vous donne qui est débile. Et bon, moi je lis Libé dans l'avion, ben c'est gratuit, hein. Le Monde aussi, donc quand je prends un avion francophone, je lis ces deux trucs-là, uniquement là, enfin, ou si je les trouve chez quelqu'un, quoi. Mais donc lisez des trucs intéressants, dites votre chapelet, Et donc, c'est des points d'impulsion. Hein. La prédication, c'est comme la messe du dimanche, c'est une impulsion pour toute la semaine. Donc, il y a un très bel édifice qui va nous permettre de vivre la vie chrétienne avec trois dons. Les premiers qu'on voit là, on a vu le don de crainte en décembre. On va voir le don de piété aujourd'hui et le troisième don qu'on va voir, c'est le don de science, qui sont trois dons qui vont nous aider à nous écarter du péché. Et donc ça sera notre premier volet, si vous voulez, hein. Décembre, janvier, février, c'est la fuite du péché, qu'on appelle les béatitudes de la fuite du péché. Après, en mars et avril, on fera les béatitudes de l'action, hein, donc correspondant au don de force et au don de conseil. Et puis ensuite, les deux dernières instructions, on fera les dons de la contemplation, dons d'intelligence et dons de sagesse. Alors vous avez toute une gradation qui est très intéressante parce que, on fait correspondre à cette montée des sept dons des aspects de notre vie. Vous voyez, quand Saint Augustin et Saint Thomas s'intéressent sur la vie humaine, ils disent quel est notre but, c'est le bonheur. Donc on cherche le bonheur, ce que le Christ a compris. Le sermon de la montagne, la partie centrale, chapitre 5 de Saint Matthieu, c'est bienheureux serez-vous si vous faites ci, si vous faites ça. C'est des béatitudes, c'est-à-dire c'est des chemins pour aller vers le bonheur. Et donc, l'homme cherche souvent le bonheur dans les fausses voies. Donc, il faut d'abord écarter les fausses voies. Ça sera les trois premières béatitudes correspondant aux trois premiers dons, qui, justement, nous feront... les béatitudes, si vous voulez, c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit dans notre âme. Lorsque le Saint-Esprit exerce dans notre âme le don de crainte, nous vivons la béatitude des pauvres selon l'Esprit. Lorsqu'il exerce le don de piété, nous vivons la béatitude de la douceur. Lorsqu'il exerce le don science, nous vivons la béatitude de ceux qui pleurent. Et ces béatitudes nous écartent, si vous voulez, des fausses béatitudes du monde. Et ça, c'est un premier pas, si vous voulez. Avant de voir où se trouve vraiment la béatitude, on verra qu'il y a une préparation dans l'action, et le summum, c'est dans la contemplation. Mais il faut d'abord écarter les fausses voies. Et les fausses voies, c'est ce que Aristote appelait déjà la béatitude bestiale, c'est-à-dire ce après quoi on court, mais qui ne peut pas nous remplir. Si vous voulez, des jouissances de l'ordre sensible, hein, ou de l'ordre de la violence, enfin en gros, si vous voulez, la violence, le sexe et le fric, quoi. La possession, hein, qui est écartée, la possession désordonnée, à en avoir de plus en plus, qui est écartée par la béatitude des pauvres en esprit, le don de crainte. Ensuite, après la possession, là, si vous voulez, le fait de la violence, un peu de se mettre en colère pour écarter les obstacles à notre béatitude que sont les autres, qui sont en perspective agnostique, si vous voulez, ou en perspective athée, à mon avis, les autres sont toujours un gros problème. Si vous lisez Sartre, ou même Camus, enfin, Nietzsche encore plus, vous vous rendez compte que l'autre, c'est l'enfer, enfin, ce que Sartre a vu, et c'est pas tout à fait faux, dans une perspective où il n'y a pas la communication entre les hommes par le don de piété, qu'on va expliquer, on est tous fils de Dieu, au moins on est appelé à le devenir, eh bien, c'est une lutte les uns contre les autres, donc la violence s'exerce. Et ça, c'est le don dont on va parler aujourd'hui, le don de piété, qui nous fait devenir doux, qui nous fait exercer la béatitude des doux, pour ne pas chercher notre béatitude, mais en fait d'écraser les autres, voyez. Et puis un troisième aspect, qui consisterait à chercher, alors ça c'est plus classique, ça c'est malheureusement très de toutes les époques, j'en ai un regain aujourd'hui, dans la civilisation hédoniste, hein. L'hédoniste c'est un mot grec qui signifie le plaisir, hein, donc un plaisir partiel, mais un plaisir quand même, qui est recherché de façon désordonnée, en dehors de la justice, en dehors de la vérité, en dehors de, voilà, dans la jouissance immédiate ou dans la liberté absolue. Et donc, dans cette civilisation hédoniste, plus peut-être encore qu'autrefois, mais ça a quand même toujours existé chez les libertins, chez certains types d'épicuriens, pas tous, mais un désir, au fond, de mettre sa béatitude dans l'accumulation des jouissances. Et comme vous le savez par expérience, n'est-ce pas, ou que vous l'apprendrez bientôt, et je souhaite que vous en fassiez l'expérience, disons, le plus vite possible, avec le moins de dégâts possible, ce qui n'est pas vraiment possible, parce qu'on se casse toujours la figure là-dessus, eh bien, ça ne nous remplit pas. Ça ne nous remplit pas, il y a une fuite infinie dans la recherche de plaisirs de plus en plus raffinés, ou de plus en plus spéciaux, de plus en plus qu'on veut, sadique ou pas, enfin, ça dépend des gens, mais ça ne remplit pas. Vous voyez, la béatitude concernant à se contenter dans la partie sensible est écartée, donc on le verra donc le mois prochain, par le don de ceux qui pleurent, parce que la vraie perspective chrétienne nous fait pleurer sur ces choses qui sont misérables et qui sont laides, hein, on le voit bien. Ça se termine en général par des crimes, par des connus ou pas, et par des misères profondes. le prêtre, moi j'ai 28 ans de sacerdoce, et je peux vous dire que les béatitudes, je les vois au quotidien dans les âmes des gens que j'écoute, hein, et que je confesse. Enfin bon, mais je suis sympa, n'ayez pas peur, si vous le confessez, je serai pas... Faites d'abord 4 jours de retraite, ça vous sera encore mieux préparé. Mais bah, on les voit au quotidien, parce que c'est comme ça, c'est l'homme est fait, si vous voulez, pour autre chose. Donc, si vous voulez, la première étape qu'il faut franchir, c'est d'écarter les faux bonheurs. Hein. Le bonheur de la possession, par la béatitude des pauvres, le bonheur de la violence, par la béatitude des doux, et le bonheur de la jouissance déréglée, par la béatitude de ceux qui pleurent. Donc, béatitude des fuites du péché. Donc, ça, c'est un aspect extrêmement important. Après, on montrera avoir des commencements de béatitude dans l'action, et des préparations de la béatitude, pardon, dans l'action, et des commencements dans la contemplation. Mais voyez, c'est assez beau, parce que, en fait, quand saint Thomas et saint Augustin regardent l'Évangile, ils disent, mais c'est formidable. Et de fait, c'est formidable. Il y a plein de trucs dedans qui sont extraordinaires et qui correspondent au réel. Et c'est pour ça que c'est sympa, vous voyez, l'Évangile. C'est que c'est pas simplement se shooter pour au LSD évangélique, si vous voulez, parce qu'on n'a pas le moral, quoi. Alors on déprime, alors on se shoot, quoi. Chacun a son shootage propre, hein. Enfin, je vous fais pas de dessin, mais... c'est vrai que c'est très dangereux parce qu'on prétend sortir, hein, on s'éclate, on fait la méga teuf dans des limites au-delà de la raison, parce que vous avez tous fait une teuf formidable, évidemment. Le 31, peut-être pas tous, nous on a chanté un TDM, encore que pas nous, parce qu'on était dans la voiture, on revenait de la retraite. Donc, mais les frères, c'est notre teuf à nous, c'est ça, quoi. Et c'est pas mal, hein, parce que le TDM, c'est bien. C'est une joie plus intérieure, évidemment. Mais enfin, voilà. Mais alors, donc, après, il y a une déception, quand même, il y a un vide, hein, les lendemains de fête, il n'y a pas seulement le mal de tête, et là, le poisson de verre, ou je sais pas quoi, il y a d'autres choses, enfin, c'est que ça creuse en nous l'abîme du néant, quoi. Ça fait qu'on est à chercher ce qui ne se trouvera jamais. Hein, je lisais récemment à propos d'un écrivain, qui était assez doué, malheureusement, il a été fusillé, et qui a, je disais, un petit résumé de sa biographie, et il était dit de lui, c'est un type très doué, hein. Pas pourquoi on l'a fusillé, c'est comme Chénier. Enfin, il y avait des motifs de fusiller, mais on n'a pas pu fusiller quand même, quoi. Mais c'était comme Chénier, quoi, qu'on a coupé la tête, c'est très grave, quoi. Donc, il disait, mais il était omnubilé par l'éphémère des choses, quoi. C'est-à-dire qu'il dit que, voilà, tout passe, et voilà, quand je suis un éclair d'instant d'amitié avec quelqu'un, il cherchait en jour au maximum, et sa vie, ça a été une course, il est mort à 36 ans, quoi. Il a écrit de très belles choses, hein. C'est difficile de mourir à 36 ans, hein. C'est toujours difficile de mourir, hein. Même à 23 ou à 97, hein. Mais il a écrit de très beaux poèmes, hein. La mort ni le soleil ne se regardent en face. J'ai essayé pourtant. Et de fait, j'entends encore la voix de Pierre Freinet qui lit ses poèmes tout à fait profonds. Enfin, je fais pas l'apologie de la doctrine de ce poète politique, que j'aime pas sa doctrine politique, s'il en a une, mais certainement c'est un grand poète. Et je vous en parle pour vous dire qu'il avait senti, comme souvent les poètes, l'éphémère des choses. Enfin, comme tous les grands poètes l'ont senti, Baudelaire spécialement, Rimbaud et tant d'autres, hein. Qui ont senti, et pourtant c'était des génies qui étaient proches de l'être, et peut-être plus proches naturellement de Dieu que nous le sommes. Ce que dit Lacordaire, il dit, un génie, enfin, où les saints sont géniaux dans leur ordre, et on est appelé à devenir géniaux du génie de la sainteté, sont des âmes de nostalgie que Dieu, dans la création, fait plus proche de lui que les autres. Il y a une sorte d'inégalité, si vous voulez. Ils s'emmerdent un peu plus sur la terre, quoi, mais ils sont plus géniaux. Mais voilà, alors chacun s'est bien réparti, que les autres se marrent plus, mais les autres sont plus géniaux, quoi. Mais ils trouvent que la vie est plus creuse parce que, voilà, entre leurs symphonies, quand ils ont fini de les composer, ils savent pas quoi faire et quelquefois ils meurent, il n'y a qu'un chien qui suit leur cercueil, quoi. Donc la vie est quand même quelque chose de drôle, quoi. Un chien qui suit le cercueil d'un des plus grands musiciens de l'histoire du monde, et puis, par contre, à d'autres cortèges que je ne nommerai pas et que je vous laisse deviner, on a toute la fausse intelligentsia qui honore le cadavre d'un damné, ou au maximum d'un gars qui en a pour le purgatoire jusqu'à la fin des temps. Enfin, dans quelques cas, c'est pas ça. Mais très souvent, quand je vois les noms de rue, je me dis, tiens, pas mal, j'imagine dans quelle bolche de l'enfer Dante le mettrait, quoi. Enfin, bon, je suis un peu vache parce que c'est pas toujours comme ça, vous voyez. C'est pour vous éviter que vous vous endormiez, quoi. Voilà. Alors, donc, vous voyez, c'est trois béatitudes, hein. Donc, j'ai fait un peu cette mise en place parce que c'est important de voir où on va. On va essayer, donc, par la vie du Saint-Esprit dans notre âme, à partir de l'habitation trinitaire, donc cette grande vérité extraordinaire, qui est quand même extrêmement heureuse, hein, extrêmement heureuse. J'avais dit, là, ceux qui ont suivi la retraite que j'ai prêché récemment, j'avais dit que pour saint Thomas, hein, alors j'ai retrouvé la citation, enfin je l'avais retrouvée, le commencement c'est la joie spirituelle. Eh, c'est quand même pas mal, hein. Et je crois que les dons du Saint-Esprit, ça nous aide, voilà, il est nécessaire, dans commentaire sur l'épître aux Philippiens, je vous traduis, commentaire sur l'épître aux Philippiens, il est nécessaire à tous ceux, à quiconque veut avancer, à tous ceux qui veulent avancer, qu'ils aient la joie spirituelle. Formidable. Évidemment, le début, c'est la crainte. On a vu, il faut quand même baliser un peu pour ne pas faire de bêtises. Quoi. Pour être dans la main de Dieu, il faut se réfugier en lui par l'humilité, par l'espérance et par la crainte de nous, pas de lui. Enfin, on dit la crainte de Dieu, mais c'est la crainte de nous de nous barrer. Quoi. Vous voyez, on craint que d'être en dessous des dons de Dieu et de trahir les dons de Dieu. Mais Dieu, lui, reste fidèle. Et donc, la crainte fait que, ben, on fait gaffe et on se réfugie en lui. Et on tâche de rester humble. Donc ça, c'est le fondement négatif, c'est le, si vous voulez, le... Ah, mais c'est sympathique. Il y a même des suppléments, vous voyez. C'est... À quiconque veut profiter, il est nécessaire que son verre de bière soit rempli de temps en temps. Et de fait, c'est bien fait. Et alors, donc, il y a un fondement négatif, on creuse le fondement, là, l'humilité, et puis le fondement absolu, c'est la foi, évidemment, sur lequel on construit. Mais saint Thomas dit bien que, quand on veut avancer, il faut avoir la joie spirituelle, et on l'a déjà... je dirais ontologiquement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la joie de Dieu, c'est le 3, le grand mystérieux de la Trinité, qui procède du Père et du Fils, selon l'amour, comme si vous voulez, le Saint-Esprit est comme, si vous aimez quelqu'un, il est comme la blessure que ce quelqu'un fait en vous. Ça n'a pas de nom. Dans l'intelligence, il y a le verbe, il y a un nom, il y a la pensée, mais dans l'amour, ce que l'amour fait en nous, il n'y a pas de nom. Pourtant, il fait quelque chose. Hein. Quiconque a aimé ou est aimé le sait. Il y a en lui une marque, qui est une blessure, enfin, souvent les mystiques, ça s'exprime comme ça, la blessure, hein, la blessure en nous de celui qui nous aime et qui prend possession de nous. Et désormais, nous ne sommes plus les mêmes. Il y a quelque chose d'ouvert en nous, par où coule le sang de l'amour et par où nous dilatons aussi. Alors l'amour, ça fait mal et en même temps, ça dilate. Quoi. Enfin, tout le monde sait ça. Parce que souffrir est la livrée des amants. Hein, c'est ce que dit, non pas un poète érotique, mais Saint-Jean de la Croix. Parce que souffrir est la livrée des amants. C'est pas mal vu. Hein. Après, c'était quand même des types, hein, ces gars-là. Hein, le petit Saint-Jean de la Croix, là, que Thérèse, je l'aime beaucoup, c'est un type assez austère, et Thérèse d'Avila l'appelait mon petit Sénèque, qui était tout petit, il y en avait un grand qui était beau, charmant, qu'elle aimait beaucoup aussi, et alors il y avait mon petit Sénéquito qu'elle trouvait quand même un peu austère, quoi. Ouais, c'était comme lui qui est devenu docteur mystique, hein, le Sénèque. Mais il était très charmant aussi parce qu'il allait prendre des goûters avec ses moines dans la montagne, là. Et puis leur parler de Dieu, puis il décollait, c'était formidable. Il fallait qu'il s'accroche aux grilles quand il s'est évadé de sa prison, où l'ont mis ses frères très gentiment, et en lui tapant dessus tous les au début de chaque repas, on allait le flageller. Alors à un moment donné, il en a eu marre, il s'est évadé, donc c'est à la fois un mystique, un homme d'action. Il s'est évadé avec les draps de son truc, enfin comme dans un film, hein, sauf que là, il aurait dû se casser la gueule, mais. Et puis il s'est réfugié chez les sœurs. C'est souvent le refuge des mystiques, c'est les moniales. Hein. Enfin, c'est les moniales au point de vue. Moi, une fois, j'ai prêché une retraite à des moniales, alors c'est du billard français. Elles avalent tout, quoi. Ça, c'est consommant. Non, mais, attendez, j'ai dit beaucoup moins de gros mots, hein. Avec elles, évidemment. Et alors, donc, c'est formidable, parce que c'est vraiment des contemplatives, et on comprend que Saint-Jean de la Croix, il est sorti de sa prison, il est allé chez elle, en Carmel, il y a des grilles, les sœurs sont venues, et il a commencé à réciter le poème, il avait composé des poèmes de mémoire, qu'après, il a commenté. Dans l'expérience de la souffrance de la nuit, il a composé le poème... de la Noche, qui est au début donc, de sa première œuvre, la nuit obscure. Il a commencé à réciter ce poème, et puis après, donc, il a décollé. C'était extraordinaire, il était en extase. Parce qu'évidemment, il avait chez les sœurs ce répondant, si vous voulez, de l'âme qui exerce le don d'intelligence. Et donc, c'est très beau tout. Et donc, il faut cette joie spirituelle qui nous est donnée par le Saint-Esprit, et qu'on va voir à l'œuvre, donc d'abord dans notre crainte, qui aussi nous nourrit. Vous voyez, Sainte Catherine de Sienne insiste sur le fait que la crainte. Chrétienne n'est pas une crainte qui dessèche et qui recroqueville, mais c'est une crainte qui nourrit intérieurement. C'est une tristesse qui ne cause pas d'affliction, mais qui cause au contraire une certaine nourriture intérieure. Donc il y a cette première crainte donc, qui nous fait faire attention, et puis après il y a un épanouissement supplémentaire dans la béatitude de la douceur et dans le don du Saint-Esprit qui est le don de piété. Hein, donc on va commencer, je fais une introduction un peu longue là pour remettre un peu en place ce qu'étaient les dons, on va commencer à attaquer plus spécifiquement le don de piété que le Saint-Esprit exerce en nous lorsqu'il souffle, parce que c'est le propre des dons du Saint-Esprit, c'est lui qui a l'initiative. Dans les vertus, nous agissons, si vous faites une retraite, vous prenez des résolutions, hein. Pas trop, hein. 2 ou 3, bon. Et alors vous les prenez, après vous bougez pour les tenir. Et si vous ne bougez pas, il faut vous rebouger, mais avec votre volonté, bon. Mais là, parce que c'est la vertu, on a l'initiative de la vertu. Même la vertu surnaturelle. Hein. Vous dites, il est l'heure de dire mon chapelet, je vais faire un acte de la vertu surnaturelle de religion en disant mon chapelet. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui a l'initiative dans les dons, et c'est un peu la différence, si vous voulez, entre la rame et la voile. Quoi. Nous, on peut tendre les voiles, et voilà, il faut avoir un certain art, ceux qui ont fait du bateau le savent, pour ne pas se mettre à la flotte au premier changement de bord, parce qu'il faut avoir un certain art pour orienter la voile, etc., en fonction du bateau, des passagers, tout ça. Et de tout, bon, mais on n'a qu'à, une fois que la voile est tendue comme il faut, le bateau file, vous voyez. Eh bien, les dons du Saint-Esprit, c'est ça. Le Saint-Esprit a tendu des voiles à notre baptême, nous on peut les affaler, évidemment, hein, si on fait péché mortel, pout, tout ça affale. On se retrouve la quille en l'air, éventuellement, et donc c'est pas trop marrant. Alors après, ce qu'on fait, on retrouve tout, hein, grâce à Dieu. Bon, mais quand on a la grâce, on a les dons du Saint-Esprit, et il faut donc qu'il soit tendu, si vous voulez, pour que quand Saint-Esprit souffle son inspiration, on la reçoive. Et donc c'est un aspect mystique, vous voyez. C'est pour ça que j'aurais voulu faire les commandements avant, pour avoir un peu l'aspect ascétique plus, mais bon, on commence par cet aspect-là, qui est un aspect intrinsèque et indissociable dans la vie chrétienne, il y a un aspect mystique. Et c'est justement ce que Gardeil, Garrigou-Lagrange et quelques autres, et pas seulement des dominicains, mais des carmes, des séculiers, dans les années 20, 25, jusqu'à 50, 60, ont remis en lumière dans l'Église, et donc nous avons aujourd'hui, malgré le malheur des temps, tout ce qu'il faut pour faire un malheur dans le bon sens du terme. Parce qu'on a une super doctrine avec des gens qui étaient à la fois des doctrinaux, pas des doctrinaires, hein, des intellectuels, pas des intellectualistes, et en même temps des gens très charitables. La cause de Garrigou-Lagrange est introduite dans le diocèse de Toulon. Il se faisait toujours rouler par les, je sais, par des témoins, par les pauvres, parce qu'il était un peu naïf, alors il donnait à tort à travers. Et c'est, bon, c'est un gars très sympa. Et il jetait son béret en l'air quand il était enthousiaste. Moi, j'ai vu des témoins, c'est comme si vous, je sais pas, un gosse, vous lui dites, j'ai vu Lucky Luke, quoi. Moi, j'ai vu des gars qui ont vu Garrigou-Lagrange. Ah, vous, ça vous dit rien, mais moi, ça me meurt de mégon. C'est un type extraordinaire. Et alors, les gars, quand il était à l'Angélique et qu'il faisait ses cours, qu'il était enthousiaste, il avait un béret. C'était un type du sud-ouest. Hein. Il avait un accent effroyable. Et les gens me disaient, il parle une seule langue avec trois désinences. Parce qu'il parlait le français, l'italien et le latin avec un parfait accent français. J'ai entendu des gens limités, ça a trouvé derrière par terre. Mais alors quand il était content, il lançait son béret en l'air comme ça. Oui, et c'était donc un type dynamique. Hein. Et à sa conférence, le jeudi, il avait cinq cardinaux, toute la prélature romaine venait écouter ses conférences du style, c'était un disciple de Gardeil, quoi. Qui ont vraiment, à mon avis, ont permis à la spiritualité d'arriver à un équilibre vraiment doctrinal, thomiste, qui ne fait pas de concession, si vous voulez, c'est pas laxiste, mais en même temps, c'est charismatique avant la lettre, si vous voulez, dans un sens... différent peut-être de celui qu'on pense, mais quand même ça inclut vraiment l'action du Saint-Esprit, et je crois que c'est formidable comme spiritualité. Si vous ne retirez de ce café que les effluves d'une bière et puis l'enthousiasme pour l'idée qu'il y a une spiritualité géniale avec les dons du Saint-Esprit, ben on n'a pas perdu notre soirée. Voilà. Mais enfin, je vais quand même vous expliquer un peu plus. Donc, voyez, ces dons, c'est des actions directes du Saint-Esprit dans notre âme, qui viennent perfectionner les vertus. Parce que les vertus que nous avons surnaturellement, la foi, l'espérance, la charité et tout le reste, sont très bien, mais pour nous, c'est trop compliqué. C'est comme si on nous mettait tout de suite au volant d'une voiture avec un cadran un peu compliqué, ou d'un ordinateur où on ne connaît pas encore les procédures, etc. Il faut que quelqu'un nous guide. Eh bien, dans l'ordre surnaturel, on a toujours besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Saint Thomas le dit explicitement, les dons du Saint-Esprit sont nécessaires au salut. Et Léon XIII le reprend dans sa grande encyclique sur Saint-Esprit. Donc il faut qu'on nous prenne la main. Et là, nous avons le don de piété pour perfectionner la religion. La vertu de religion est une vertu très importante, vertu centrale dans notre vie morale. C'est la plus haute des vertus morales. Juste en dessous de la charité, de l'espérance et de la foi, il y a la religion. Et donc, c'est important de savoir que cette vertu de religion qui nous règle dans nos rapports avec Dieu, eh bien, on n'est pas tout seul pour la pratiquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, parce que, là, vous voyez, quand on dit le mot vertu de religion, on se dit, bah, c'est un peu sopo, quoi. C'est un peu austère, il faut aller à la messe, il faut faire ceci, il faut dire des prières, il faut, bon, et toutes sortes de choses. Hein. Mais, d'accord, mais en fait, il faut d'abord se rendre compte qu'il y a une noblesse dans la religion qui a été un peu perdue de vue, si vous voulez, par les occidentaux depuis 50 ou, non, ou peut-être un peu plus, et même peut-être, disons, depuis l'époque des Lumières. Mais les Lumières, vous voyez, c'est-à-dire... Benoît XVI en a parlé dans ses vœux de Nouvel An. Il a parlé des Lumières avec beaucoup d'humour, finalement, et en disant, oui, on a voulu, en effet, accentuer le côté lumineux, mais en fait, c'est pas suffisant s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Et en fait, c'était assez habile la façon dont il présentait les choses. Alors les lumières, en fait, ont éteint, si vous voulez, ont éteint beaucoup de choses dans le ciel, quoi, finalement. Beaucoup de lumières dans le ciel. Et avec une espèce de prétention rationalisante, quoi. La religion, c'est casse-pied, les dévots sont des emmerdeurs. Il y en a un certain nombre qui sont chiants, ça, c'est sûr. Hein. Donc vous voyez que, ça, je dirais pas ça démonial, hein, ça, c'est clair. Ou même à des sortes de ponquelettes qui me sont sur eux après. Ex-experientia. Bon, donc, mais vous voyez, il y en a qui sont chiants devant des grenouilles de bénitier. Dans les vieux bouquins de spiritualité, vous avez tout un passage. La dévote, machine, gna gna gna, qui est pleine de fiel et tout, qui n'est pas vraiment pieuse parce qu'elle n'aime pas les gens et tout. Bon. Alors, ça existe sans doute encore, mais comme il n'y a plus grand monde de pieux, il y en a beaucoup moins. Hein. Moi, j'en ai connu quelques-unes. Et finalement, figurez-vous que elles sont peut-être moins méchantes qu'on ne le pense. Hein, bon, elles ont une âme aussi, enfin, bon, etc. Les gens qui sont toujours dans l'église aussi ont une âme à sauver. Moi, ils m'énervent, hein, donc les gens trop pieux, mais bon. Ça peut vous paraître étrange, mais ils m'ont toujours énervé. Bon. Alors, je fais beaucoup d'actes de vertu, il faut des fois être pieux, il faut être pieux. Bon. Mais alors, bon, ils sont agaçants parce que les types pieux sont agaçants. Vous voyez. On comprend, enfin, c'est ce que dit Gardini. Judas, il en a eu marre de Jésus, quoi. Ben oui, parce que les types, il est trop parfait, quoi. Donc, voilà, ça, c'est énervant, quoi. Mais c'est très humain, hein. Quand Sartre et Nietzsche disent l'autre, il me casse les pieds, mais c'est vrai même pour des chrétiens. Donc, attendez, le don de piété va arriver, là, tout ce que je vous ai dit, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Bon, mais don de piété va arriver pour changer ça. Mais n'empêche, le premier réaction, c'est dit, mais le mec, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Pourquoi il est là, quoi? Ben, il est sympa, mais, voilà. Moi, quand je rentre au couvent, enfin, je vous confie ça, mais venez quand même si vous venez chez nous. Je sors de prêcher un truc, pendant 5 jours, on est avec 30 personnes qu'on a à disposition. Bon, on rentre de Paris, il y a toujours plein de trucs à faire et tout. Je dis, ouf, on va pouvoir être un peu tranquille. Non, il y a des autres au couvent. Mais ils sont super sympas. Mais venez, hein, il y a des frères plus souriants que moi et tout ça. Enfin, donc, pas de problème. Mais je veux dire, bon, il faut leur dire bonjour, s'occuper de ça. Alors qu'on est quand même surbooké, parce que vous n'imaginez pas. Les gens disent, les moines, qu'est-ce qu'ils foutent? Je me souviens, quand je suis arrivé au service, l'adjudant, il m'a dit, mais... D'abord, il me dit, qui t'a fait ça? Parce que bon, j'étais en uniforme. Mais j'étais comme ça, quoi. Même plus rare. Parce que là, on est un peu libéraux, là. Alors, il dit, qui t'a fait ça? C'est le coiffeur? Ah, je dis, non, moi, je suis comme ça dans le civil, là. Alors, on a commencé à discuter. Il dit, mais... Ah, j'ai dit, j'étais moine et tout, et pas que j'étais moine, hein, bénédictin. Et il me dit, mais ça finit quand, ta vocation? Ah, j'ai dit, ça finit jamais. Mais même, là, ils sont un gros paquet de billets, même si je te donne plein de fric, tu vois. Non, tu peux me donner tout ce que tu veux, je travaille comme ça. Mais t'auras jamais tombé, dit non, jamais. Ah bon, t'es assez inquiet, bon, on a commencé à discuter. Pourquoi je vous parlais de mon adjudant, là? Il dit, oui, il dit, qu'est-ce que... Enfin, c'est pas adjudant, c'est le mec du bar. Après, l'adjudant m'a posé aussi plein de questions. Et il dit, le mec du bar, il dit, mais, qu'est-ce que vous foutez toute la journée? Ah, ça, la grande idée des gens. Ben, j'aime mieux vous dire qu'on n'a pas le temps de se poser la question. Parce qu'on fait tout ce que vous faites, vous, quoi. C'est-à-dire qu'on a tout le ménage, tout plein de trucs, plus tout un tas d'autres choses, quoi. Donc, on a de quoi s'occuper. Et donc, quand on rentre au couvent, on se dit, ben mince, d'ailleurs, la règle dominicaine, en principe, il n'y a pas d'autre. Mais nous, on est vachement évolutifs. Et tout en étant traditionnel, voyez, on n'a pas gardé cet aspect-là de la règle, parce qu'on dit, c'est pas sympa, aujourd'hui, il y a moins de couvents, et puis il y en a moins de Saint-Pie-V au carré, comme nous, parce que nous, c'est Saint-Pie-V au carré. La messe dominicaine, c'est la messe de Saint-Pie-V qui l'a dit personnellement. Enfin, ceci dit, c'est une blague, ça. Mais on se dit, c'est pas sympa, il faut que les gens puissent venir, donc on a ouvert. Pour les gens qu'on connaît déjà, comme vous, donc vous pouvez venir. Et donc on vous accueillera très bien. Mais le premier réflexe, c'est de dire, ils nous font brère, quoi. Enfin, quand on arrive, on dit, bon, il y a autre chose, j'ai ma thèse à finir, j'ai machin, j'ai truc, faut faire un courrier à l'évêque, un truc, etc. Il faut s'occuper des gens. Et donc, le don de piété va nous aider à vivre ça d'une autre façon, vous voyez. C'est-à-dire que, certes, la religion a une grandeur, hein, les devoirs religieux sont grands. Moi, je ne peux pas dire le contraire, je suis religieux au sens technique du terme. C'est-à-dire que toute ma vie, si vous voulez, sous l'emprise du vœu de religion, j'ai un certain nombre de choses qui sont prescrites dans la règle. Mais à partir de là, je suis très libre parce que le supérieur, enfin c'est moi le supérieur, mais enfin au-dessus il y a le cardinal et le pape quand même, et il peut me commander que dans la ligne de la règle. Hein. C'est une grande liberté, c'est pas du tout obéissant comme un cadavre. Donc, mais enfin, on a tout un tas de trucs, si vous voulez, qu'on accomplit par devoir de religion. On a fait vœu, on a promis d'obéir à tous les commandements des supérieurs dans la ligne de la règle. Et ce qui fait que tous les actes qu'on fait, même d'autres vertus, des jeûnes, des balayages, des thèses, des apostolats, machin, ont tous en plus la vertu d'un acte liturgique, si vous voulez, un acte religieux. Donc c'est tout bénef, quoi, c'est double rentabilité, quoi, pour les économistes, parce qu'à la fois vous avez l'acte de vertu, et puis en plus tout ce que vous faites c'est une liturgie. C'est la liturgie de votre règle, c'est la liturgie de votre apostolat, et c'est une liturgie parce que, étant donné qu'on est consacré par le vœu, tout ce qu'on fait a valeur, si vous voulez, de service divin. Et donc il y a une grandeur extraordinaire. Moi c'est ce qui m'a plu dans la vie religieuse, ça avait un côté un peu, je sais pas, un peu comme un autre choc, quoi. Vous voyez, les mecs, qui sont là, il n'y a pas de vacances, quoi. Alors, ça peut vous paraître marrant, mais ça motive, hein. Parce que quand il y a des vacances, je dis, mais je vais où? Je vais où? Si je vais là, ça va vexer un tel et tout. Je suis dans la famille, mais dans la famille, il y a plein de problèmes, plein de divorcés, plein de machins et tout. Mais c'est tout, hein, c'est comme ça. Donc c'est vrai que ça vous supprime un certain nombre de problèmes. Enfin, on y va quand même dans notre famille, bien sûr. Bon. Mais on n'a pas, si vous voulez, on n'a pas le problème de gérer autre chose que notre existence, quoi. C'est comme les officiers de Légion qui passent Noël toujours dans le corps de troupe, quoi. Alors nous, on est officiers de la Légion divine, si vous voulez, voilà. Ou deuxième classe, au képi blanc, religieux, bon. Et alors c'est sympa, il y a une grandeur, si vous voulez, il y a une grandeur même humaine, hein. Il y a une grandeur humaine, c'est pas... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui relève de la religion, c'est-à-dire que c'est une justice, voyez. La religion est une partie de la justice. Et ça, on l'oublie beaucoup. Et c'est pourquoi notre société marche complètement sur la tête, c'est que nous sommes débiteurs vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, selon la vertu de justice. Soit la vertu commutative, si vous voulez, quand on achète quelque chose, on doit payer le prix, et puis voilà. Soit selon la justice distributive, le supérieur, le chef de la cité, ou de celui qui est en position d'autorité, doit distribuer aux gens les charges et les récompenses selon leurs mérites et leurs capacités, en fonction du bien commun. En principe, les familles nombreuses devaient être détaxées énormément parce qu'elles concourent au bien commun d'une façon prodigieuse par l'éducation des enfants. Donc c'est ce qu'on appelle distributif, vous voyez. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas les mêmes impôts. Et les récompenses sont aussi distribuées en fonction des mérites, en principe. Normalement, la Légion d'honneur, enfin, autrefois, on l'a donnée à des mecs qui l'avaient mérité. Enfin, un certain nombre d'entre eux, quoi. Hein, je parle de la Légion d'honneur à titre civil. Hein, qui... Bon. Et alors, voilà. Mais donc, c'est pour dire qu'il y a une justice, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dû. Il est normal, vous voyez, quand vous éduquez, il est normal que vous encouragiez. Il n'y a pas que la punition qui est due. Le malfaiteur a un droit strict en justice d'être puni. Après, vous pouvez l'aider à se réinsérer, à diminuer, etc. Mais il a un droit d'être puni. Mais on a aussi un droit d'être récompensé. Ça, l'oubliez pas dans l'éducation. Hein. Parce que c'est important. Je crois que l'éducation française, c'est un ami qui connaît un peu plus les systèmes qui ont beaucoup de défauts par ailleurs, mais qui ont quand même des avantages. L'éducation académique française, enfin, anciennement, à l'époque, on bossait, enfin, vous bossez, vous, beaucoup, je sais bien. Mais c'était surtout, là et là, ça va pas, quoi. Hein. Pourquoi t'as 3 en maths et 7 en physique? Il dit, attends, mais j'ai 20 en dessin et 19 en gym, quoi. Là, non mais c'est vrai, là, aux États-Unis, le mec, il est le premier, il est le gars qui renvoie au baseball, alors il est aussi important que le premier en maths. Alors, je dis pas forcément qu'il faut avoir la même échelle que les Amerlocs, mais il y a un côté sympa. Il n'y a pas que les intellos, si vous voulez, qui doivent être récompensés, quoi. Et le type, par exemple, s'il est bon en piano, bah, qu'il fasse du piano. S'il est bon avec ses mains, qu'il fasse un machin où il travaille avec ses mains plutôt que faire chômeur à Bac+7, quoi. Derrière un ordinateur, quoi, en cherchant des emplois. Et donc il faut savoir aussi encourager ce qu'il y a de bon, même si ça ne nous plaît pas. Mais c'est une justice, vous voyez, parce que chacun doit recevoir ce qu'il doit recevoir. Donc dans la justice, on rend à chacun ce qui lui est dû. Et par rapport à un certain nombre de personnes, à savoir nos parents, enfin d'abord Dieu, nos parents et la patrie. La patrie, vous voyez, au sens large, nos sources culturelles, quoi. Eh bien, nous sommes en état de justice, de débiteurs par rapport à eux, mais nous sommes insolvables. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi ces vertus, saint Thomas les appelle les vertus qui règlent ça, à savoir la religion pour Dieu, la piété filiale pour les parents et la piété à l'égard de la patrie, ce sont ce qu'on appelle les vertus de vénération. C'est-à-dire qu'elles sont entourées d'une espèce d'affection supplémentaire, parce qu'on ne rendra jamais à Dieu l'être qu'on a reçu de lui, on ne rendra jamais à nos parents l'existence qu'ils nous ont donnée, et à notre culture et à notre patrie, la langue et tout ce qu'on a reçu. Même si vous appelez Pascal Euclide ou Wolfgang Amadeus, et ben, ou Einstein, vous pourrez pas. Parce que Einstein n'était pas possible sans Poincaré, sans les autres avant. Donc comment voulez-vous, et tous les scientifiques le savent, hein, aucun scientifique n'existe en dehors de la communauté et de ce qu'il y a eu avant lui. Vous voyez. Et même si dans votre chambre, tout seul, en réfléchissant comme Blaise, vous retrouvez toutes les propositions d'Euclide, peut-être que vous serez nul en théâtre ou en architecture ou en politique ou en je ne sais quoi. Et ça, vous en profitez, vous baladez, voyez Notre-Dame, vous pouvez rentrer visiter des choses extraordinaires. Et le français, c'est quand même une langue qui est belle aussi, il n'y a pas qu'elle, il y a le grec aussi qui est beau. Enfin, un langage sonore aux douceurs souveraines, le plus beau qui soit né sur des lèvres humaines. D'après Chénier, c'est mon vieux livre d'exercice grec qui avait marqué ça, première. Donc, même si je suis un génie, je vais pas quand même écrire les poèmes de Pindare ou... Non, comme ça, dans le métro, tout seul. Et même si je le fais, je ne ferai pas E égale MC2. Donc, je suis nécessairement débiteur, vous voyez. C'est très important de comprendre ça. Parce que sinon, on est imbuvable. C'est pour ça que vous êtes mal poli, d'ailleurs. Non, vous êtes exception par rapport à votre génération, etc. Vous avez fait tout un cheminement. Et vous êtes ouvert à l'autre en tant qu'autre, je le vois bien. Mais en fait, tâchez d'éduquer vos enfants encore mieux que vos parents vous ont éduqué, ce qui est pourtant déjà pas mal. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez frappé comme la mufflerie assez hallucinante, mais qui est presque inconsciente, parce que tu veux, on est éduqué dans l'individualisme, dans le virtuel, dans le retournement sur soi. On se lève pas pour céder la place aux dames dans le métro, on ne remercie pas, on va pas vers les gens plus âgés. Enfin, c'est assez hallucinant, quoi. Alors que c'est quelque chose, si vous voulez, qui nous constitue, si vous voulez. On va à la messe en n'importe quelle tenue, ce qui est mal poli vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prêtre, vis-à-vis des autres. Voire en été, on y va en short et avec clac, clac, clac des trucs qui font mal. Hein? À moitié à poil, quoi, pratiquement, parce qu'il fait trop chaud. Bah, tu sais, moi, j'ai dit la messe à Rio, avec ça, plus les ornements, ça sert de toi. Évidemment, ça dégouinait, je ne me demande pas de faire ça. Mais écoutez, si le prêtre, normalement, le prêtre, il n'est pas... Enfin, la plupart des prêtres ne disent pas la messe en costume de bain, quoi. Même les très avancés, quoi. Donc, si vous voulez, il y a un minimum... Non, mais quand vous allez chez des gens, si vous voulez, vous ne vous pointez pas. Enfin, chez moi, maintenant, il paraît que c'est la mode. Consiste à être grossier par... On se pointe n'importe comment. Attendez, vous réfléchissez comment ils veulent vous voir, qu'est-ce qui leur fait plaisir, non? Et vous, enfin, je sais pas, c'est... Sinon, y a... la sociabilité, c'est une vertu aussi. Là. Bon, donc, vous voyez, là, dans ces vertus-là, on est débiteur et insolvable. Et j'insiste pour la patrie, parce que il y a actuellement un déficit, le mot patriotiste est peut-être un peu ambigu, mais il y a un devoir de piété filiale vis-à-vis de ce qui nous a constitué. Alors parfois c'est plusieurs, moi j'ai un piété filial pour l'Espagne où je suis né, pour la Bretagne où j'ai grandi, pour Paris où j'ai habité pendant 18 ans, où j'ai fait du soleil, etc., toutes sortes de choses, et tout ça, mais voilà, c'est bon, j'ai trois patries quoi, la France, la Bretagne et puis et l'Espagne, enfin bon. Mais alors vous pouvez pas avoir une demi-douzaine, mais ça fait des dons, ça fait des choses que vous ne pourrez jamais remercier. Et c'est formidable, ça. Et donc, vous voyez, la vertu de religion est une vertu très importante qui est peu exercée par les Occidentaux et qui est pourtant une vertu naturelle, capitale. Mais alors, il faut faire attention parce que, il fait qu'on obéit au commandement de Dieu. Et on le rend le culte qui lui est dû. C'est-à-dire, le summum de la religion, c'est d'adorer. C'est-à-dire que le summum de la religion, c'est dans la prière et spécialement dans l'adoration, où on reconnaît que Dieu nous a créés. Et donc, évidemment, la messe où le Christ adore pour nous son Père, c'est le lieu par excellence de l'adoration. C'est pourquoi il y a un côté sacral dans la messe très important. Parce que c'est là où j'adore celui qui m'a créé, et en fait l'âme du Christ adore son Père, et elle sait faire mieux que moi. Donc c'est merveilleux. Mais donc il faut faire ça, vous voyez. Il y a une vertu de religion qui fait qu'on se retourne vers Dieu, et on reconnaît qu'il nous a créé, c'est l'adoration. Et seulement, il faut faire attention parce que si on prend... uniquement cette vertu de religion comme ça, ça peut être quelque chose de peut-être un peu raide, vous voyez, d'un peu effrayant. De même que s'il n'y a que la crainte sans la confiance, il y a un déséquilibre. Il y a de même s'il n'y a que la religion en justice, si vous voulez, il peut y avoir une sorte de matérialisme des actes religieux, surtout à l'époque où la société était chrétienne. Moi j'ai connu des sociétés presque intégralement chrétiennes, et c'est vrai qu'il y a un certain pharisaïsme chez un certain nombre de gens qui font les devoirs parce qu'ils vont à la messe, parce que tout le monde y va, ou parce que le patron les foutra à la porte s'ils ne vont pas à la messe. Ça c'est, vous hallucinez, hein, mais moi j'ai connu des trucs comme ça. Il y a un conformiste qui jouait dans un sens, bon, qui faisait peut-être quelques hypocrites ou un certain nombre d'hypocrites. Aujourd'hui on fait beaucoup d'hypocrites dans l'autre sens, hein, mais bon, ça je ferme la parenthèse. Donc toute société a ses inconvénients, mais il vaut mieux quand même que le courant en gros pousse quand même plus vers le bien que vers le mal. Bon. Mais enfin il y a ce danger de l'hypocrisie, ça c'est clair, et ce danger du pharisaïsme, des choses un peu extérieures, et puis on s'acquitte vis-à-vis de Dieu, vous voyez, pour avoir bonne conscience, etc. Bon. Alors, il faut garder cette idée qu'il y a une justice, qu'autant on doit rendre à Dieu et qu'on n'arrivera jamais à lui rendre ce qu'on lui doit, mais en même temps il faut adoucir par le don de piété. Voyez, le don de piété est une action du Saint-Esprit qui vient perfectionner la vertu de religion et qui va introduire entre nous et Dieu des rapports personnels comme entre un fils et son père. Voyez. Et donc on va passer dans un autre ordre qui va être beaucoup plus sympathique, qui va être beaucoup plus, oui au sens étymologique du terme, beaucoup plus... Je vais sentir les choses avec Dieu. Et je vais sentir les choses avec Dieu comme étant son fils, comme étant de sa famille. On a fait tout le pater pour un peu parler de ça. Donc, même après les choses de justice, je ne les ferai pas de la même façon, vous voyez. Quand vous accomplissez un devoir de justice vis-à-vis de votre père, ou de vos des proches, avec qui vous êtes liés par une source commune, si vous voulez, les liens du sang, normalement, il y a une certaine onction. Hein, je dis normalement, parce que... Il y a aussi des grincements et tout, bah, ça c'est normal. Mais il y a ontologiquement, si vous voulez, du fait que je suis né du même sang ou que c'est mon père et ma mère, bon, ben, j'ai moins de mal, si vous voulez, à leur rendre les devoirs quand ils sont vieux, à s'occuper d'eux, etc. Parce que j'en sors, quoi. Donc, c'est clair que je vais faire ça avec onction, quoi. Et il va y avoir, si vous voulez, entre mes rapports, entre moi et Dieu, il va y avoir quelque chose de plus personnel, parce que le don de piété va introduire la considération des rapports de personnes. Vous voyez, dans une famille, moi j'ai connu une famille, c'est assez extraordinaire, qu'en principe, quand vous prêtez des trucs en famille, il faut faire gaffe, il ne faut pas tout se faire trop dévaliser par les frangins et tout, mais enfin bon, on se les prête, quoi, voilà. Mais là, c'est une famille, quand ils se prêtaient un disque, ils faisaient un reçu. Alors, je trouve que c'est assez bon, c'est peut-être que vous faites ça, donc je vous parle. Mais c'est quand même un peu hallucinant, parce que le mec, il faisait un reçu pour être sûr que... Bon, mais peut-être si vous avez des frangins particulièrement dévorants, c'est le seul moyen de vous déprotéger par rapport à eux. Mais avouez que c'est pas la première idée qui vous vient à la tête, quand même. Hein? Bon. Il y a une certaine, si vous voulez, il y a un rapport personnel, quoi. Il faut pas vous servir comme ça, sans prévenir les parents dans leur caisse, hein, c'est clair. Mais enfin, vous savez que si vous manque 2 euros, peut-être que vous pouvez leur emprunter sans faire une déclaration en 3 exemplaires, non? Et les prévenir après. Non, c'est des trucs évidents. Hein? Parce qu'il y a le rapport de personne, vous voyez. Eh bien, dans la religion, si vous voulez, on passe, si vous voulez, avec don de piété, en considérant le fait que c'est pas simplement, Dieu n'est pas simplement mon Seigneur, mais il est mon Père. Donc quand je rends hommage à Dieu dans la religion comme Seigneur, je me tourne vers lui, si vous voulez, à cause du fait qu'il a sur moi un droit. Ça paraît assez curieux, mais dans un sens transcendant, Dieu a un droit sur nous. Les droits de Dieu sont le fondement qui justement se traduisent par la création de la nature humaine. Hein. Dès qu'un quelqu'un est créé, il a automatiquement un être humain, la nature humaine, qui est la manifestation d'une sagesse divine et qui fonde ses droits. C'est le fondement des droits de la personne, fondamentaux de la personne humaine, qu'on appelle aujourd'hui, de façon un peu impropre, droit de l'homme, enfin bon, il faut s'entendre, ça peut avoir un sens acceptable, c'est le fait que les personnes ont la nature humaine qui est créée à l'image de Dieu et par sa sagesse. Hein? Donc à ce moment-là, on doit respecter, si vous voulez, ce qu'il y a, et en nous aussi, on doit respecter le fait que Dieu nous a fait. Et donc on doit le reconnaître. Et on doit reconnaître les bienfaits de Dieu. Il nous a créés, et puis même dans l'ordre surnaturel, il nous a rachetés. Et donc ça, la vertu de religion, vous verrez si vous relisez l'Apocalypse au chapitre 4 et 5, vous avez deux chants des élus dans l'Apocalypse qui se tournent vers Dieu en le remerciant de les avoir créés et en remerciant de les avoir rachetés. C'est très beau. Ça, c'est un chant, typiquement un chant de religion. Et on remercie Dieu de nous avoir fait. Dans l'anaphore byzantine, Saint Jean Chrysostome, on dit, avant de parler de la rédemption par le Christ, au Dieu qui avait amené toute chose du néant à l'être. Bon. Et donc, on remercie pour ce bienfait, et après, on va le remercier pour la rédemption. Mais alors, il y a quelque chose de plus après. On peut se tourner, si vous voulez, à considérer Dieu non seulement comme la source de bienfaits, hein, comme notre Père, si vous voulez, la source de notre vie, mais on aime notre Père, si vous voulez, normalement, on l'aime, je dirais, un amour de volonté. Hein, parce que parfois, on peut se disputer avec tous, fâcher, enfin, bon, il peut y avoir des choses familiales, si vous voulez, c'est vrai. Mais faisons attention à ne pas vivre toujours à la surface et dans le sensible et le fusionnel. Hein. Le rapport de famille, le rapport entre les hommes, doit se passer d'abord, et, enfin, avec l'aide de la sensibilité, mais au niveau de l'amour de raison, au niveau de l'amour de l'esprit, au niveau de l'amour de bienveillance, d'amitié, et pour les chrétiens, de charité. Et donc ça, normalement, ça doit être un peu à l'abri des fluctuations de la sensibilité. On peut être agacé vis-à-vis de quelqu'un, mais pour autant lui conserver la charité. Et bien, vis-à-vis de notre Père, si vous voulez, on a un rapport, on l'aime parce que c'est notre Père, si vous voulez. On considère en lui, si vous voulez, la qualité de paternelle, si vous voulez, et en Dieu, c'est ce qui va se passer. Dans la vertu de religion, on reconnaît le droit de Dieu comme notre créateur, le droit seigneurial de domination, parce que Dieu, c'est vrai, notre Seigneur. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et il ne peut être notre Père qu'en étant notre Seigneur. Ça, j'y insiste, parce que aujourd'hui, il y a un avachissement diminutif de la transcendance de Dieu en milieu chrétien. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui passent au minimum à l'orthodoxie, dans le meilleur des cas, mais même au judaïsme ou à l'islam, parce qu'ils trouvent que le Dieu des chrétiens, il est mou. Enfin, vous savez que c'est ma spécialité de taper sur le... Enfin, ceux qui me connaissent, un peu, ça m'énerve, moi. Dieu n'est pas mou, et le Christ n'est pas mou. Le Christ n'est pas simplement le sweet Jesus en carton-pâte, style sulpicien amélioré par des amerlocs qui vous envoient leurs vœux. Je pense à une carte que j'ai reçue récemment. On perd pas la foi, mais je sais pas comment. Hein. Bon, d'accord, ça peut-être aider quelqu'un, mais moi, ça m'aide pas, je peux vous dire. Parce que si vraiment c'est qu'un espèce de chewing-gum comme ça, ben je m'en tamponne, quoi. mec, il est un peu pédé à la limite, quoi. Enfin, si vous... Ah, non, mais je suis pas là, je vais être condamné, etc. Mais je veux dire, bon, je suis pas méchant, mais je veux dire, bon, voilà, c'est un... il est mou, quoi. Mou, quoi. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il est Dieu. Donc, il est fort. Et que cet être fort soit mon ami et mon frère, alors ça percute. C'est Dieu lui-même, si vous voulez, quand vous voyez l'icône du Christ, au haut, il y a marqué l'être, l'étang infini. Et cet étang infini, c'est le bébé de la crèche. Alors là, j'hallucine et je commence à faire plein de poèmes. Parce que ça, c'est intéressant. Que le fort, ce qu'on chante dans la liturgie de la semaine sainte, au Dieu immortel, Dieu fort, Dieu puissant, ayez pitié de nous. C'est le Christ qui est l'immortel. Saint immortel, Saint Dieu, Saint fort, ayez pitié de nous. On répète tout le temps, la liturgie byzantine a l'équivalent chez les latins aussi. Et c'est extraordinaire que le Dieu fort se soit incarné, soit devenu notre frère. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Il est né dans une étable, celui qui tonne dans les cieux, et l'incirconscriptible, celui qui ne peut être attrapé par personne, c'est fait petit fœtus dans le sein d'une vierge. Alors ça devient intéressant. C'est mon frère et c'est Dieu. Alors attends, c'est quand même incroyable. Hein. Ça, aucun dramaturge n'a pu écrire un truc aussi bien. Hein. Mais la chute est encore plus formidable, sa vision béatifique. Mais là, ça devient intéressant. Il est Seigneur, il est curios, c'est ce que dit explicitement Saint Paul dans la grande hymne des Philippiens, il est curios. C'est un Seigneur, qui veut dire Dieu. Et c'est le mot par lequel les Juifs, les 3 ou 4 derniers siècles, désignaient Adonai, qui veut dire mon Seigneur, enfin, qui remplaçait par ce mot dans la Septante des Grecs, et il ne voulait pas dire Dieu, il ne voulait pas dire Yahweh, c'est un nom trop sacré. Il disait, il s'inclinait la tête en silence, ou bien il disait, pour les Grecs, Kyrie, hein, et puis Adonai pour ceux de langue arménienne, bon. Et c'était pour employer quelque chose, mais c'était Dieu. Et bien, le Christ, c'est Seigneur. Saint Paul le dit explicitement. Et donc, vous voyez, la vertu de religion va se transformer, s'améliorer, en ce sens que je vais avoir affaire, non seulement au droit seigneurial de quelqu'un qui me domine, dans l'ordre naturel et surnaturel, il me domine, mais il me domine, c'est positif. Il y a des gens qui ont peur d'être dominés par Dieu. Mais attendez, c'est la force tranquille, Dieu. Dieu, il me domine pas pour m'écraser, quoi. Combien de gens ont une image de Dieu complètement super Goldorak, je suis plus fort et je t'écrase. Mets-toi à 4 pattes et fais ta prière, et sinon tu vas prendre une paire de baffes, quoi. Pour beaucoup de gens, Dieu c'est ça, mais attendez, non. Justement, la force de Dieu me constitue. Donc tant mieux qu'il soit au-dessus de moi. Oui. Donc ce Seigneur, si vous voulez, que je vénère par la vertu de religion, eh bien c'est mon Père, et je me tourne vers lui, pas simplement comme un serviteur, je reste son serviteur, ben, les religieux, nous on est éminemment des serviteurs de Dieu, ce que dit Denis l'Aéropagite, les thérapeutes, ceux qui font une sorte de médecine autour de l'autel, si vous voulez, divine, ils servent Dieu dans la liturgie, bon, mais en même temps, on espère devenir vraiment encore plus ses fils. Et tous les chrétiens sont appelés à ça. Et donc le fils, lui, eh bien, il va aimer dans son père, non seulement il va être reconnaissant à son père parce qu'il lui a donné quelque chose, mais il va aimer sa personne, vous voyez. Il va s'établir... Donc, s'il y en a un qui est assis dans l'escalier qui veut venir là, non. Vous revenez, non? Non, voilà. Donc, il y a une place. Il fait trop chaud? Non. Donc, non seulement, si vous voulez, on remercie Dieu ce qu'il nous a donné, mais on s'adresse à sa personne comme à un père. Oui. Et donc, on va considérer, si vous voulez, parce que quand on fait une louange à Dieu, on essaye de proportionner la louange à ce qu'il nous a donné. C'est pas facile, hein. Il nous a créé, il nous a racheté, donc on essaye d'y aller au maximum. Mais là, dans la vertu de religion, c'est même plus ce qui est en question, c'est lui qui nous intéresse. Vous voyez, quand on dit « nous vous rendons gloire dans le Gloria », on dit « nous vous rendons grâce pour votre grande gloire », point. Parce que Dieu est glorieux, ben nous le remercions. Donc c'est quelque chose de très beau. Ça introduit, si vous voulez, une espèce de gratuité supplémentaire, et on va honorer non seulement l'action divine qui nous crée, non seulement Dieu en tant que créateur mystérieux et voilé, vous voyez, qui est en fait ce qui est adoré par les religions païennes, hein. Même un peu trop à la limite. Hein. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire de ce jésuite qui revenait d'Inde et qui nous avait fait, quand j'étais en classe préparatoire, une conférence, et il nous disait, ici il n'y a pas assez de Dieu, mais en Inde il y en a trop. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec le panthéisme, ça envahit un peu tout, quoi. Et dans les religions animistes ou païennes, on révère, si vous voulez, quelqu'un qui n'a pas de visage en fait tellement déterminé. Et en islam, c'est caractéristique. L'essence de l'islam est la soumission au créateur. Parce que par un acte de son libre arbitre et de son arbitraire, il nous a créés, et nous, notre seul devoir est d'être soumis, et au ciel, nous aurons des récompenses de serviteurs. Donc c'est l'essence de l'islam. Toute idée d'association ou d'amitié avec Dieu est quasiment blasphématoire. Tandis que dans le christianisme, évidemment, on s'adresse au Père, et on s'intéresse au mystère de son nom. Et vous avez dans l'Apocalypse aussi, au chapitre 11 et 15, donc reprenant les chants du chapitre 4 et 5, qui concernaient les bienfaits divins, vous avez la louange au nom de Dieu, simplement. Gloire à les élus, les quatre vivants, les vieillards qui déposent leur couronne, qui représentent les prophètes, les apôtres. Donc, rendre gloire à Dieu parce qu'il était, qu'il est et qu'il vient. Parce qu'il est éternel. Il nous rend gloire parce qu'il est. Et donc, il y a un rapport avec le mystère de Dieu très profond et au fond assez émouvant parce que c'est notre source, vous voyez. Avec, par le don du Saint-Esprit, nous avons la Trinité dans notre âme et à la racine de notre être, qui est plus intime à nous que nous-mêmes, comme dit Saint Augustin à propos de Dieu, et ce qui est la racine nous émeut. Pourquoi les gens sont assez souvent émus par le souvenir de leur première communion, ou des Noëls quand ils étaient petits, ou de... Vous voyez ? Quand on se souvient des trucs quand on était petit, c'est parce que... Pourquoi c'est émouvant ? C'est émouvant parce que on est près de la source, vous voyez. On est près de l'origine, et dans l'origine, dans l'enfance, vous voyez. Normalement, tout le monde est un peu ému par Noël. Même les incroyants, on dirait certains voudraient avoir la foi, les désespérés voudraient avoir l'espérance, ceux qui n'ont pas l'amour voudraient peut-être l'avoir pour sentir battre le cœur de Saint-Joseph. Enfin, pourquoi ça, Noël, c'est émouvant ? Parce que c'est l'origine, c'est un enfant. Et donc, voyez, nous, avec le don de piété, on sent en quelque sorte remuer en nous, si vous voulez... Dieu qui a voulu en quelque sorte être engendré dans notre grâce, enfin, que par la grâce, si vous voulez, nous possédons comme un hôte, et nous sommes avec lui dans des rapports extrêmement profonds, que quelqu'un comme Élisabeth de la Trinité a bien vu, dans une belle prière, a justement une élévation à la Trinité. C'est la grande dévotion, c'est le fait que la Trinité habitait dans son âme. Et donc, un des paragraphes de cette prière, « Au feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi pour qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe. Que je lui sois une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. » Donc, vous voyez, c'est l'esprit d'amour qui nous permet de prendre conscience du fait que le Verbe s'incarne et qu'il vient pour nous sauver. « Et vous, ô Père, » donc là, il s'adresse au Père éternel, « Penchez-vous vers votre pauvre petite créature, couvrez-la de votre ombre, ne voyez en elle que le bien-aimé en lequel vous avez mis toutes vos complaisances. » Et donc, en fait, le don de piété, si vous voulez, fait que nous sommes, par rapport à Dieu, dans un rapport un peu comme le Christ à Gethsemane, en train de prier son Père. Et comme le dit très bien Gardeil dans ce beau petit opuscule sur le Saint-Esprit, il dit « Le don de piété, au fond, a pour caractéristique de mettre en notre âme... de nous permettre de dire le mot de Père, Abba, Père, avec quelque chose de l'accent qu'il revêtait dans la bouche de Jésus. Soit quand il a enseigné le Pater à ses apôtres, qu'ils l'ont vu prier, qu'ils l'ont dit, apprends-nous à prier, parce qu'ils l'ont vu prier, donc comme priaient les sémites, c'est-à-dire soit à voix basse, soit à voix haute, donc ils l'ont entendu, ils l'ont vu, et l'accent qu'il avait en appelant Dieu, Papa, qui est le mot araméen Abba, hein, c'est ce que ça signifie, est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire, et avec le don de piété, rentre, si vous voulez, par le Saint-Esprit, comme le dit très justement Saint Paul, le Saint-Esprit rentre dans notre âme pour mettre dans notre âme une onction filiale qui nous fait crier vers Dieu comme vers un Père. Donc on n'est pas dépaysé, on n'est pas perdu, parce que celui que nous avons adoré comme l'origine du monde, celui que nous avons adoré comme la racine de notre être, celui-là est mon Père, et même comme un Père aime ses enfants. Et même plus. Et le don me fait unir à l'intelligence, à la volonté, à la sensibilité du Christ. Par le don du Saint-Esprit, je suis uni à ça et je peux prier Dieu comme il le priait lui-même. Même si c'est inconscient et surtout si c'est inconscient. Oui. Je crois que c'est très important de se rendre compte que dans la prière, il y a habituellement beaucoup trop un désir de conscience. Je dis, mon Père, je m'ennuie dans l'oraison. Rassurez-vous, moi aussi. Donc tout va bien, mais moi je ne suis pas un exemple. Hein. Mais les carmélites aussi, etc. Bon. Donc, il y a de la désolation, de la sécheresse, mais on est en face du Saint-Sacrement, et notre âme est dans la charité. et Jésus adore en nous. Et le Saint-Esprit parle avec des paroles ineffables qu'on ne peut pas traduire en langage humain. Et il se passe quelque chose, la preuve, quand vous faites oraison, vous n'êtes pas le même que quand vous ne le faites pas. Celui qui adore le Saint-Sacrement, celui qui se bat pour faire oraison, si possible tous les jours, un quart d'heure, ou au moins de temps en temps dans la semaine en passant dans une église, celui-là ne sera pas le même, vous-même ne serez pas le même. Comment ça se fait? C'est inexplicable. Absolument inexplicable. Il y a même des effets visibles par la province des Carmes d'Occitanie, là, ceux du Sud. Ils ont eu une phase, ils n'avaient plus aucune vocation. Il y avait un père, le père maître des novices, qui faisait l'oraison carmélitaine une heure le matin, une heure le soir. Une heure le matin, une heure le soir, pendant toutes les périodes de désolation. Et pof, maintenant, allez-y, moi j'y étais, je n'ai même pas été reçu au réfectoire, parce qu'il n'y a pas de place. C'est bourré de jeunes, là, qui font oraison, une heure le matin, une heure le soir. Parce que rien que le fait de faire oraison, vous voyez, ça, c'est la fidélité au désert carmélitain, donc hop, ça revient. Voilà. Et de même, il y a des curés qui ont repeuplé un peu leur paroisse avec l'adoration Saint-Sacrement. Donc, parce qu'il se passe quelque chose, vous voyez, je crois que c'est Benoît XVI, pour ça, est assez encourageant. Hein, parce que je pense que c'est vraiment le pape de l'intériorité. Ils le sont, évidemment, tout pape chrétien est un pape de l'intériorité. Mais je crois que Benoît XVI, il va, on le sent, là, il a récemment encore recommandé la lecture spirituelle, la lecture divina. Son premier discours, ça a été un des premiers, un congrès eucharistique dans le sud de l'Italie, donc en insistant sur la sanctification du dimanche. C'est des choses qui n'ont l'air de rien, mais le réel, le plus profond, il est par là. Il est le Saint-Esprit qui est dans mon âme et qui justement prie avec ses gémissements ineffables et qui met dans mon âme, si vous voulez, la tendresse nécessaire pour mes rapports avec Dieu qui va tout adoucir. Oui. Le don de piété est à la religion ce que la tendresse est au respect. Dans l'amour, il faut les deux. Il faut le respect qui malheureusement, dans l'amour hédoniste et consumériste, l'amour kleenex, hein, l'amour jetable, quoi. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. En fait, on cherche à satisfaire. Il y a des illusions pendant un certain temps, fusionnelles plus ou moins, et après on jette le portable, ou la femme, ou le type, ou ça. Parce que il n'y a pas le respect. Et donc il faut le respect comme un écrin. Mais il faut évidemment l'amour, qui est fondamentalement quelque chose dans l'esprit, hein, un mystère dans l'esprit, finalement. Et puis la tendresse qui traduit ces choses-là. Et ça s'exprime, hein. Il ne suffit pas d'aimer quelqu'un dans son cœur et de jamais lui dire. Je vous rappelle, messieurs, pour vos fiancés et pour vos épouses. Parce que dans ce sens-là, on a besoin de le rappeler un petit peu. Voilà, enfin, peut-être dans l'autre sens aussi, hein. Je sais pas. Non, parce qu'on a besoin, l'homme et la femme, encore plus, est un être de relation, on a un être de symbole. Donc il faut, vous voyez, par rapport à Dieu, c'est pareil, c'est pas à peine de dire, ben moi, Dieu, je l'aime. Je me souviens d'un vieux. Un vieux prédicateur qui était venu chez nous, j'ai eu la chance d'en avoir des vieux, recuits dans leur bonté, des types fantastiques qui sont venus nous parler de la vie qu'ils ont menée, et puis de ça, quoi, nous faire des cours là-dessus. Donc moi, je fais que répéter, quoi, avec mon style, ce qu'ils m'ont dit avec le leur. Il y en avait un qui disait, dans un couvent, là, il y en a qui disent, le bon Dieu, je l'aime bien, pas besoin de faire oraison, adoration, l'office, moi, je l'aime bien, hop. Vous l'aimez bien, mais vous ne lui dites pas, quoi. C'est un peu embêtant, quoi. Donc il y a une tendresse qui fait qu'on exprime les choses. Et la prière, c'est ça, quoi. Même la sécheresse de la prière, c'est consacrer un quart d'heure à perdre du temps avec Dieu, même à rien faire, ben oui. Mais il faut ne rien faire de temps en temps, quoi. Il faut réintroduire une dimension gratuite dans vos vies, sinon vous allez tous péter les plombs, hein. C'est déjà fait pour quelques-uns d'entre vous, ils sont peut-être pas là ce soir, mais ça nous menace tous, tôt ou tard, hein. Pour tenir le coup, là, vous carburez depuis 6 ou 7 ans à fond les manettes, hein. Moi, ça fait 33 ans, donc si encore le coup, mais je crois que si je ne m'arrêtais pas, je ne tiendrais pas. Hein. Même on rajeunit en vieillissant comme ça. J'ai marqué un vieux père qui avait bien 85 ans, un jour il était venu, il avait raté son train, donc on n'était pas à la gare, pof, il arrive, comment il était venu en stop. Un vieux 85 ans, tout. Et puis qui rentrait chez lui comme ça quand il arrivait à la gare, il dit qu'il n'y avait pas de car, alors j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, je prie les anges. Il y a des gars qui le prenaient, qui le déposaient chez lui. Quoi. Alors ce vieux père, pourquoi je vous parle de lui? Ah oui, parce qu'en fait, il était rafraîchissant, si vous voulez. Il avait alors plein de petites attentions. Il était très frileux, mais il apportait ses couvertures pour ne pas nous donner du boulot en plus. des trucs comme ça. Et alors, mais c'est un génie, hein. C'est un génie. Des 3-4 plus grandes intelligences que j'ai jamais eues. Et alors, il disait en fait que l'adoration, ça fait rajeunir. Ah, il est mort à 89 ans, quoi. C'est quand même pas mal. Vous me direz aujourd'hui, avec les antibiotiques, on fait mieux. Enfin, l'adoration, c'est un rajeunissement parce que vous pouvez mourir gaga aussi, hein. Tandis que lui, il est mort comme lucide, mais bon, ça c'est un peu un autre problème. Mais je veux dire que c'est vrai que spirituellement, moi je suis frappé, si vous voulez, que les grands-mères chrétiennes ou les gens qui vivent vraiment leur foi, leur vieillesse est féconde dans leur entourage, au-delà de leur efficacité immédiate. Et je crois que ça tient au don de piété. Donc alors on va y venir parce que j'ai pas encore tout dit, mais on va aller plus vite sur la deuxième partie. Le don de piété nous met en rapport non seulement avec Dieu, mais avec nos frères. Parce que quand on est dans une famille, il y a le père et la mère, et puis il y a les frères et sœurs. Et donc le don de piété fait que nous considérons tous les êtres humains comme des frères du Christ, au moins ils sont appelés à l'être, sauf les damnés. Attention. Sauf les damnés, on en a parlé la dernière fois, les damnés ne peuvent plus être membres du Christ parce qu'ils ont refusé. Bon. Mais tout être vivant peut se convertir encore. Et donc, soit il est chrétien, soit il peut le devenir. Soit il est en état de grâce, soit il peut retrouver la grâce par la contrition, par l'absolution. Et donc, voyez, le don de piété fait que nous aimons non seulement notre Père, nous lui manifestons un certain rapport avec plus d'onction que si c'était simplement notre chef, ce qui reste toujours, Dieu est notre chef toujours, mais il y a notre chef qui est notre Père, donc c'est génial quoi. Enfin, si vous avez travaillé avec un grand patron qui est en même temps votre ami, ou un capitaine super génial qui avait un escadron mythique, on bousculait pour aller, alors on en bavait trois fois plus qu'ailleurs, mais c'était surbooké, parce que le type, et alors les gars en plus souvent, enfin, les idées, prenez ça dans le domaine qui vous intéresse, hein, si c'est un grand joueur de piano, et que en plus vous avez son amitié, c'est vrai qu'il y a un rapport, vous avez un double rapport, le rapport de la communion dans une passion commune, quoi. Et puis le rapport avec la personne. Et là, on se ferait tuer, quoi. Hein. On se ferait tuer pour le chef, parce que c'est pas seulement le chef, quoi. C'est lui, quoi. Alors, donc, on y va, quoi. Hein, c'est extraordinaire. Et on se ferait tuer, soit au combat, soit dans la recherche scientifique, soit dans l'art, soit dans la construction d'une famille et tout, qui est aussi une œuvre. Peggy disait, les pères de famille sont les aventuriers du XXe siècle. Alors, pour le XXIe, je crois que ça reste valide. Hein. Et donc, voilà. Et donc c'est vrai qu'il faut avoir aussi des motifs de se faire tuer, sinon on n'a plus de motifs de vivre. C'est ce que j'ai remarqué Ratzinger dans un de ses bouquins. Aujourd'hui les gens se suicident, ben, évidemment il n'y a plus de motifs de vivre, il n'y a plus non plus de motifs de donner sa vie pour quoi que ce soit. Et là ça vaut la peine de donner sa vie pour les autres parce qu'ils sont une facette de la filiation divine. Ils représentent quelque chose, Dieu leur a donné sa grâce, ils sont un mystère incommunicable. Oui. Évidemment si vous assistez quelqu'un à l'article de la mort, vous en rendez compte assez facilement que l'âme que vous avez là, ben vous ça peut vous arriver. Hein. Faut pas non plus hésiter, faut pas voler aux gens leur mort. Et il faut aussi parler aux gens. Surtout quelquefois il n'y a pas de prêtre, il y a pas de. Puis les médecins vous racontent des blagues aussi. Bon. Et là vous rendez compte, vous avez un rapport tout à fait particulier avec une âme qui va paraître devant Dieu, qui est un trésor et fait pour l'éternité. Donc il y a une émotion. Enfin, ce qui donne un sens à la vie, justement, je crois que c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire que Sartre dit l'enfer c'est les autres. Ben moi je crois que c'est le ciel qui est les autres, oui. Malgré ce que j'ai dit sur les autres quand ils viennent chez nous. Mais c'est vrai, parce qu'en fait c'est vrai que quand vous réfléchissez au fait qu'une personne qui a un mystère incroyable, qui est aimé par Dieu toute éternité pour en faire un prince dans le ciel, et qu'il a quelque chose en lui qui va mourir, enfin Mozart qu'on assassine, si je ne l'aime pas, et ben, ou si je ne lui fais pas un signe, et ben ça donne un sens à votre vie, quoi. Que vous vous dites, ben, je vais me bouger pour lui, enfin, je vais lui tendre la main, je vais lui sourire, je vais prier pour lui. Et vous voyez, le don de piété fait que on va avoir vis-à-vis de tous un peu une attitude familiale. Hein, parce que chacun est appelé à être participant de la gloire que Dieu lui destine. Chacun est non seulement un serviteur comme nous, rivé à la même chaîne, si vous voulez, courant vers le gouffre de la mort, parce qu'il y a ça aussi. On est tous en train de courir plus ou moins vite vers un endroit où le tapis devant nous s'arrête, quoi. Chacun une date qu'on ignore. Alors ça, c'est la vue un peu baisée, absurde, mais c'est quand même la réalité. La vie s'arrête, quoi. Alors est-ce qu'on va se considérer comme ça, heureux qu'il en est? Lui, il reste 5 ans, moi j'ai plus que 3 mois, enfin bon, on n'en sait rien, jouissons et buvons parce que demain nous mourrons. C'est pas le pied, hein. Enfin, vous pouvez essayer, mais c'est pas... Moi, je crois que c'est vomitif. Pascal dit... C'est peut-être Pascal qui dit ça. Il dit que celui qui met sa fin dans les jouissances, qu'il jouisse et qu'il crève. Alors c'est assez bien vu. Et de même, on se rend bien compte de ça, tu vois. Pour ça que la famille en général, les gens ils flinguent. Ou ils, je sais pas ce qu'ils font, ou ils se flinguent eux. Parce que c'est absurde. Mais par contre, si on se rend compte que chacun est un mystère voulu personnellement par Dieu, alors tout prend une allure extraordinaire. Et je pense que vous voyez, on a dit une chose tout à fait juste. On a dit le catholicisme est une école de respect. Et je crois que c'est vrai. Bon, il y a des abus, il y a des mauvais chrétiens, mais ils sont encore plus coupables. Les chrétiens sont toujours en dessous de l'évangile. Alors qu'on peut être musulman sans être complètement en dessous du Coran. Enfin, on est en dessous du Coran parce que c'est un morceau, c'est un créé, etc. Mais les commandements du Coran, il y a 5 trucs à faire, vous pouvez les faire. Vous pouvez faire les 5 trucs du Coran. C'est-à-dire, et maintenant, pour être mystique en plus, si du moins l'université d'Al-Azhar vous laisse, hein, les orthodoxes fanatiques vous laissent, bon, vous pouvez en plus être mystique, c'est facultatif. Mais nous, les chrétiens, par définition, on est toujours en dessous de ce que nous demande l'Évangile. Donc, il faut accepter aussi de savoir qu'on est imparfait et que, bon, et que même les périodes de chrétienté ont regorgé de péchés. Hein, ça, c'est vrai. Mais d'abord, il y en a peut-être quand même un peu moins. Bon, il y a plus de sources de salut, il y a plus de moyens de revenir à la source du salut. Et en plus, c'est vrai que le christianisme a mis dans le monde une chose qui est une école de respect. Même des agnostiques le reconnaissent. Même des hindous respectueux, bon, qui connaissent le christianisme, disent « Mais pourquoi vous, vous venez chercher chez nous, alors que vous êtes chrétien, que vous avez cette chose extraordinaire qui est le message du Christ, qui pour eux n'est pas Dieu, mais qui est un avatar de la divinité, qui est quand même un type extraordinaire. » Donc, je crois que c'est très important, ça, aujourd'hui. Parce que pourquoi le christianisme s'occupe des Mongoliens? Moi, j'ai connu le jeune, par exemple. J'ai déjeuné avec lui, pas loin d'ici, rue Galland. Hein. C'était un type impressionnant. Hein. Mais je crois, surtout impressionnant par son humanité, mais surtout par son simplicité extraordinaire. Pourquoi il s'occupait, c'est un génie. Hein. Pourquoi il s'occupait des gens, de tout le monde, personne ne s'occupait. Mais parce que, c'est l'école du respect. Quoi. Pourquoi il y a des gars qui s'occupent des lépreux? Pourquoi c'est pas pareil d'être soigné par une infirmière? Enfin, si vous êtes infirmière, j'admire beaucoup, j'ai une soeur qui l'est. Je crois que c'est une vraie vocation très importante. Mais c'est vrai que les religieuses avaient un type de soins qu'on regrette aujourd'hui. Hein. Parce qu'il y a autre chose, vous voyez, Valérie, je vous ai raconté l'histoire de Valérie qui est mort dans un couvent, enfin, avec des religieuses, et Valérie était agnostique. Hein. Où est-ce que j'ai encore lu ça? J'ai lu l'histoire d'une musicienne qu'il connaissait très bien. Nadia Boulanger, qui déjeunait avec lui, il était absolument extraordinaire, Valérie, et dès qu'on parlait de Dieu, il se taisait, il disait rien. Et là, donc, à sa mort, la religieuse lui a dit, est-ce que vous m'autorisez à prier pour vous, à dire le De Profundis, enfin, à dire une prière pour vous, et le Kyrie, enfin, je sais pas quoi. Et alors, Valérie lui a dit, ah oui, et rajoutez le Miserere. Le Miserere, c'est le psaume 50, un psaume de pénitence. Alors lui, cultivé comme il était, il savait ce que c'était. Ben, c'est incroyable, quoi. Ce type, qui était vraiment agnostique de chez agnostique, hein, et avec l'agnosticisme du génie poétique, c'est un génie extraordinaire, Valérie. Il n'aurait pas eu cette religieuse, là il a eu comme une perche tendue, parce que il a vu dans cette femme le visage de l'amour, enfin de la tendresse, de quelque chose de plus, de ce à quoi sa poésie avait toujours aspiré, au fond. Parce que le poète, c'est ça, c'est un type qui essaye de dire quelque chose qu'il ne pourra jamais dire. Et c'est, vous priez pour les poètes, hein, c'est, le poète est semblable au prince dénué, etc. Vilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher, hein, comme dit Baudelaire. Et c'est vrai, parce qu'en fait les gens ils se marrent quand vous êtes poète ou astrophysicien. Ça les fait rigoler, ça sert à rien. Et donc ils souffrent beaucoup les poètes et les astrophysiciens. Donc il faut prier pour eux. Ben, ils sont quand même utiles parce qu'ils mettent un peu, ils mettent de l'oxygène dans le monde, quoi. Les types qui servent à rien, quand ils sont pas là, tout est changé. Hein. Comme disait un aumônier de prison, le directeur lui disait, bon, quand vous avez, votre boulot, c'est quoi, vous servez à quoi? Alors l'aumônier dit, je sers à rien, mais quand je suis pas là, l'ambiance est totalement différente dans la prison. Alors, l'aumônier de prison, c'est un boulot extraordinaire. Et il sert à rien, mais c'est ça qui est bien. Il sert à rien, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, c'est l'aumônier. C'est le papa, c'est le mec, voilà, il apporte les clopes, il fait passer les messages. Enfin, maintenant, les clopes sont peut-être plus en vente libre, si vous voulez dire. Mais enfin, il apporte des trucs que personne n'apporte. Il écoute, il n'a pas à vous juger. Moi, j'ai connu des aumôniers de prison. Prison à Dominicain, là, à la Santé, Dominicain hongrois. Il couchait là, justement, à un truand. Je connais un truand qui était à la Santé avec lui. Il a fait 13 ans de tôle. Il a fait suivi de ma retraite aussi, non. Mais il a fait beaucoup de choses, c'est vrai. Et il disait, il était pas mal ce truand. Enfin, sauf qu'il a dû étrangler quelqu'un, je pense, parce que 13 ans de droit commun dans les années 70, je pense que non. Et alors il me disait, ben le père des voyottes, c'est un type comme ça. Et il a sa cellule à la Santé, quoi. Il couchait, il solidarisait avec le détenu. Et c'est un ministère extraordinaire. Voyez, et dans un prisonnier, vous voyez, souvent nous on est un peu, vous voyez, on est loin du que c'est que ça, c'est des gens, ils sont prisonniers, c'est des putes, etc. Attendez, c'est d'abord des êtres humains. Quand le jour où vous serez prisonnier, vous comprendrez ça, vous. Quand vous avez fait la queue avec la pute, moi ça m'est arrivé, pour visiter des prisonniers, alors là vous avez un autre regard sur les prostituées. Un autre. Ce que vous dites, c'est d'abord des êtres humains. Parmi les rares êtres humains que vous dites bonjour mon père. Hein. Ce que j'ai remarqué, quelques-unes, quand vous les croisez, voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a en elle une espèce, bon, il y a quelque chose. Mais les chrétiens s'occupent d'elle. Il y a des œuvres, il y a eu une congrégation qui a été fondée. Pourquoi? Mais c'est à cause, je crois, du don de piété, vous voyez. La tendresse de la piété s'étend à tout ce qui est engendré par Dieu, et d'abord les derniers, les misérables, les gars qui sont plus rien que... Justement, mon truand me disait, mon père, quand j'étais au cachot pénitentiaire, le mitard, ça s'appelle, je vous conseille pas d'y aller, les gars, parce qu'il n'y a rien là-dedans. Enfin, dis-moi, il n'y avait rien dans les années où il y était. Et on lui avait enlevé tout, sauf la Bible. Parce que ça, de Voyot lui a dit, on ne peut pas t'enlever ce bouquin-là. Donc il avait commencé à lire la Bible et tout, puis il envoyait ça contre le mur, parce qu'il ne savait pas tout ce que c'était. Quoi. Puis ouais, mon père, j'ai trouvé, il y a Luc 19, 10, allez voir, c'est la référence, c'est bon. Il y a marqué, le Fils de l'homme est venu pour chercher ce qui était perdu. Mon père, j'ai compris, là, dans le mitard, c'est moi. C'est moi qui suis perdu. Ben voilà, ce truand était chrétien. Il a compris que c'est comprendre qu'on est perdu. Et que pour Dieu, quiconque est perdu peut être sauvé par le Christ. Donc vous voyez, il y a un souffle quand même, c'est impressionnant quoi. Donc vous voyez, cette espèce d'amitié qui s'étend à tous les êtres humains, et surtout ceux qui nous exercent la paternité, par exemple pour le pape, évidemment, un pape ça veut dire père, hein. Les évêques, malgré leurs défauts, bon, moi je ne me prive pas de leur dire, hein. C'est mon boulot aussi, donc... Mais je veux dire que quand même, quand je vois un évêque, je le respecte tout à fait, je respecte sa juridiction, je l'obéis, hein. Un sujet étrange, ça peut vous paraître, et dans la sphère de sa juridiction, bien entendu. Mais je lui fais de bisouiller avec l'anneau, comme ça force un peu avec l'évêque, hein, avec le genou en terre et tout. Voilà, c'est mon père aussi, voilà. Et c'est très beau, c'est magnifique, hein. Je vois encore récemment, j'ai eu la chance de faire un petit bout avec un évêque noir, splendide, un archevêque est en poste à Rome. Quand je l'ai quitté sur le quai du Mans, parce qu'il allait... Alors je l'ai salué, mais quand je l'ai salué, je l'ai baisé l'anneau, quoi. Alors je pense que, me dit, pour les gens, c'est quand même assez marrant de voir un grand blanc, là, tout blanc, qui baise l'anneau d'un tout noir. Il avait une allure fantastique, c'est un seigneur, hein, ça. Non, mais l'église, c'est ça, il y a dans l'église, il y a des trucs comme ça. Raciste ou pas, il est archevêque, et toi, t'es qu'un frère mendiant. Hein. Non, on s'est bien marré, je lui ai proposé un plan de réforme de l'épiscopat. Il a bien rigolé. Ce qu'on prend de réforme de l'épiscopat, c'est arrêter les réunions, faites du stop et prenez le métro, quoi. C'est ça mon plan, c'est un truc un peu grossier, mais je pense que ce serait efficace. Ah, il m'a dit, oui, il est vrai que les évêques de France sont difficiles à joindre. Enfin, on a bien rigolé, mais oui, c'est extraordinaire. Dans l'église, moi j'ai prouvé ça. J'étais à Rome, à l'époque où j'étais dissident, hein, un bon dissident, si vous voulez, bon, sérieux, doctrinal, mais comme bien dissident. Et j'étais à Rome, j'ai vu les autorités et tout. Ben, j'ai été sidéré de la façon dont on est reçu, quoi. Ils ont une classe, l'église, ça a de la classe, hein. Les cardinaux, non mais je vous assure. Moi, j'étais dissident de ces dissidents, mais les quarts de Suisse me claquaient le truc et tout, ben, avec un bel habit comme ça, ils vous claquent, machin, la hallebarde, machin. Vous voyez les cardinaux beaucoup plus facilement que le ministre de la Place Beauvau ici, hein. Je peux vous dire. Hein. Vous les recevez, ah, mon père, mais j'avais une amie allemande. J'ai commencé à voir les cardinaux. Pas de problème, au téléphone, c'est des grands frères. Et c'est vrai qu'il y a quand même une humanité dans l'église extraordinaire que vous ne trouvez pas. Il y a des défauts, il y a plein de péchés, on l'a assez dit. Mais il faut avoir l'amour de ça aussi, hein, des vieux curés qui nous ont. J'en vois encore qui nous ont vraiment apporté toutes sortes de choses. Là, vous prenez des gars qui vous prennent en stop, justement, ils disent, ah, le curé, machin, ah, il était formidable, il y avait un baby-foot formidable là-haut, au patronat, ah, il était formidable, toujours dévoué, ça. Mais l'église, c'est ça aussi, c'est plein de trucs extraordinaires comme ça. Il faut aimer ça, il faut aimer l'être historique de l'église. L'église, c'est pas simplement des trucs dans... C'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a engendré, il y a, malgré tous les péchés, il y a des trucs extraordinaires qui nous ont été communiqués, et on les aime. Moi j'aime le grégorien, j'aime le tout ça, tout ce que l'Église nous a donné. Il y a plein de trucs extraordinaires, tous les poètes, tous les saints qui jaillissent de partout. Le XXe siècle, qui est un siècle d'enfer, comme disait Gustave Colsan, un grand écrivain brésilien, le siècle de nada, le siècle de l'enfer. C'est traduit comme ça justement. Bien, ce siècle d'enfer est bourré de saints. On va les voir, on va déjà commencer à en canoniser. Et nous les aimons comme des frères, vous voyez. Vous voyez que c'est extraordinaire le don de piété filiale. Fait qu'on a vis-à-vis d'eux, au ciel, ça continuera, l'affection qu'un père a pour des enfants, qu'un frère a pour ses frères, et on est toujours en famille, et spécialement vis-à-vis de nos patrons. Enfin, moi, pour Saint-Dominique, je suis complètement, complètement enthousiaste, enfin, comme un jésuite pour Saint-Ignace. Quoique, un jésuite pour Saint-Ignace, c'est pas son père, c'est son compagnon. Hein. Un jour, un jésuite m'a dit, allez, c'est mon compagnon, c'est la compagnie de Jésus. Donc, vous voyez, la spiritualité un peu différente. Mais en fait, c'est quand même le premier général. Hein. Donc, mais ils sont enthousiastes, Saint-Ignace, ils ont raison, et moi, je suis enthousiaste de Saint-Dominique. Et de Saint-Joseph, enfin de ceux qui sont nos patrons, vous voyez, qui nous protègent, Saint-Michel, qui terrasse le démon, il fait un sacré boulot actuellement. Et donc c'est génial, quoi, tous ces patrons. Et c'est vrai que ça donne, ça booste parce qu'on se dit, on n'est pas seul, quoi. Au ciel, il y a plein de patrons formidables, hein, et on peut, Saint-Albert le Grand, le patron des scientifiques, aussi Saint-François de Sales, le patron des journalistes, enfin, vous avez des patrons, non plus finir, chacun le sien. Mais c'est sympathique, si vous l'essayez, évidemment, il ne faut pas que ça obstrue la vue de Dieu, ça c'est clair. Mais en fait, les saints reflètent le visage de Dieu et le rendent proche de nous. voyez, moi, pour moi, le XXe siècle, ça restera finalement trois visages, enfin, dans la petite tête, hein, vous pouvez mettre d'autres. Hein. Moi, je vois assez bien, si vous voulez, Foucault, Padre Pio et Mère Teresa. D'autres aussi. Mais c'est vrai que ces trois visages, genre, leur visage est extraordinaire. Leur visage est extraordinaire. Et voilà, ça, on a donc été fidèles, parce que, bon, ils sont de notre famille et on les vénère. Et même, ça va plus loin, on peut aller jusqu'à vénérer la Sainte Écriture elle-même, qui est une émanation de la paternité divine. Donc il y a vraiment toutes sortes, si vous voulez, l'engendrement de la grâce qui est fait par Dieu pour tous ceux qui sont en état de grâce, fait qu'ils sont tous frères les uns des autres, et qui s'aiment comme des frères et comme les chrétiens de la primitive Église. Et je pense qu'il faut vivre davantage à ce niveau-là et lutter contre l'aspect un peu trop tempéramental. Même si les gens nous agacent, c'est pas grave. C'est normal, si vous voulez. Il faut pas. La charité, c'est pas, si vous voulez, c'est pas une école psychologique pour arrondir les angles. Ça arrondit beaucoup d'angles, mais presque sans y penser. C'est quelque chose du fond, si vous voulez. Le type, même s'il appartient à une nation qui ne me plaît pas ou un ordre dans lequel je rentrerai jamais, tout ça. C'est mon frère, c'est un type qui a des trésors extraordinaires que je dois mettre en valeur, et c'est fantastique. Et ça, c'est la charité qui me révèle, oui. Et donc, ça fait une dilatation quand même extraordinaire. Enfin, vous avez senti ça, parfois, dans... Moi, j'aime pas trop les grands rassemblements trop nombreux, parce qu'on est un peu perdu. Mais c'est vrai que parfois, on sent une vibration. Je me souviens, une fois, à Fatima, il devait y avoir peut-être 800 000 ou 1 million de personnes, pratiquement que des Portugais, alors avec leur piété très démonstrative. Et au moment de la procession, j'ai vraiment été pris, je me suis dit, quoi, c'est... Qui fait ça d'autre, quoi? Ce sont des gens qui sont là, ils sont venus à pied, ils sont en train de prier la Vierge, on est tous sous son manteau maternel. Ça bouge, ça, quoi. C'est quand même... c'est profond, quoi. Donc, vous voyez, le don de piété est quand même un don très, très attachant. Ça, c'est pas quelque chose de miel, parce que pour être pieux, il faut être fort. Et le Christ n'a pu être doux, donc on va terminer sur la mansuétude du Christ, il n'a pu être doux que parce qu'il était fort. Et je crois, par exemple, pour l'éducation, moi, je suis frappé de ça. J'ai eu la chance, hein, vous aussi... Moi, j'en ai connu, ça que j'aurai un jugement particulier, très sévère, je pense. Enfin, j'espère que vous prierez pour que je sois un peu amnistié sur les bords, parce que quand je vois la liste, il y a quand on est dans les pommes, mais sans rigoler. Mais je me dis quand même, bon, j'ai eu plein de gens hyper géniaux, quoi. Des grands-pères, des proches, des types, et des génies. Enfin, j'ai vu plein de gens qui m'ont apporté plein de trucs, quoi. Et donc, et ça, c'est grâce à l'Église. Enfin, je les ai eus grâce à l'Église. Et donc, si vous voulez, ces gens-là, surtout ce qui frappait le plus, si vous voulez, c'était en eux l'alliance de la force avec la douceur. Une douceur quelquefois virile, une douceur quelquefois plus longue, ça dépend des tempéraments. Mais ils étaient la force tranquille, quoi. Pour moi, c'est ça. Quelquefois, la force qui se déchaînait, enfin, j'en ai pâti à mes dépens. Mais je veux dire que ça ne fait rien, ils ne se déchaînaient pas tout le temps. Parfois, il faut laisser aller la colère. Hein. Rarement, si on n'arrive pas à la maîtriser. Mais parfois, c'est légitime, le Christ l'a fait. Mais normalement, la pointe de la force, c'est de contenir sa colère, pour que la sanction ou la récompense soit proportionnée. C'est-à-dire que, alors, on reprenne, comme citoyen, moi je suis obligé de le faire. En général, j'attends un peu de m'être calmé pour faire la remarque qu'il faut faire. Et ça passe beaucoup mieux, ce que c'est Saint-Dominique. Mais c'est une assaise terrible. Parce qu'il ne faut pas le faire sous le coup de l'emprise. Combien de parents disent, ah tu vois, ne touche pas à ça, mais ne touche pas, tu vas prendre une baffe, mais tu vas prendre une baffe et tout. Alors, on entend engueuler pour une mère qui va prendre une baffe. Et ils ne prennent pas du tout d'autre. Et après, alors, c'est un éclat de rage. Et du coup, le gosse, il sent très bien que c'est un éclat de rage, quoi. Donc, il vaut mieux pas dire du tout ça. Dites une fois, et la deuxième, c'est la baffe. Non, mais pas trop fort, hein, parce que sinon, je vais être aussi très une vraie. Non, mais surtout, jusqu'à un certain âge, l'enfant a toute une partie rationnelle qui ne séduit pas avec des raisonnements. Donc, c'est comme à l'armée, si vous voulez, deux sommations, la troisième, on tire, mais pas plus. Hein. Mais c'est vrai, parce que il faut se dominer aussi. Il ne faut pas que ce soit... Parce que pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous avez peur qu'ils ne vous aiment pas. Ben, vous avez tort. Vous avez complètement tort. Parce que justement, les gens qui construisent, c'est les gens qui aiment. Et justement, on les aime tellement, si vous voulez, parce qu'on sait qu'ils sont forts. On veut leur estime. Moi, combien j'ai d'images comme ça, et je vous assure que ça vous construit pour 50 ans dans votre vie. Pour rien au monde, j'aurais voulu perdre l'estime de mon père ou de telle ou telle personne. Pour rien au monde. Ça serait flingué plutôt. Donc, si vous voulez, c'est comme ça. Et combien, et je suis pas le seul, il y en a plein. Et vous, on a aussi... Alors, je pense que c'est aussi assez motivant de se dire, ben, je vais tâcher de me travailler sur moi, quoi, en tâchant, demandant l'essence du Saint-Esprit, en faisant des retraites, en m'abonnant à la revue Fraternité Saint-Ferrier. Sur le site, vous trouvez tout ce qu'il faut. Non, mais enfin, bon, ou une autre vue, d'une autre œuvre mieux, etc. Bon, mais je vais faire des efforts parce que, après, je vais entraîner les autres, si vous voulez. Si vous arrivez, si vous voulez, à... Moi, je me souviens d'un camarade de séminaire. C'est un type, c'est un des plus vieux. il avait déjà tout un parcours. Entre autres, il avait été en tôle, pour des motifs louables. Et ce type, il m'impressionnait. C'est un des plus vieux d'entre nous. Et il était très maître de lui, il m'impressionnait beaucoup, parce que moi, j'étais pas si maître de moi que lui. Et alors, il me disait, Olivier, faites comme moi, j'ai calmé la bête. Ce mec-là, il avait calmé la bête avec 6 mois de tôle et 8 ans d'exil, ou je sais pas quoi. Et là, il avait été obligé d'accalmer la bête, parce qu'il a fallu qu'il gagne sa vie dans des circonstances. Elle m'expliquait qu'on se faisait flinguer assez facilement dans le pays où il était. Et là, il fallait pas se mettre en colère, parce que les mecs, ils vous répondaient avec des pains de plastique, ou en défouraillant, enfin, en fonction du jour. Et donc là, il fallait calmer la bête. Fallait pas... Et lui, et c'était un type très maître de lui, il avait une grosse influence. Pourquoi ? Parce que c'est un, il se dominait lui-même. Oui. Et je pense que, vous voyez, le don de piété nous aide à faire ça. On calme la bête, si vous voulez, avec la force. Mais en même temps, nos entrailles de père peuvent se répandre, si vous voulez, parce qu'on les aime. Oui. J'ai été frappé, j'ai lu un... Alors, je vais terminer là-dessus, je crois que j'étais un peu trop long. Mais j'ai lu il y a un humoriste qui était formidable, Raymond DeVos, sinon je me trompe. Hein, ouais. Ah, il a écrit un bouquin, moi je n'ai jamais vu, ou j'ai peut-être entendu, mais il a un bouquin assez désopinant. Il y a même des trucs assez métaphysiques, j'ai trouvé. Il y a un truc qui m'a bouleversé. À un moment donné, il a un sketch, il explique aux gens qui les aiment. Mais c'est incroyable. Hein. Ce type, il devait travailler comme un fou pour faire ses sketchs. Et là, en lisant ce truc, moi j'avais les larmes aux yeux. Et ça, un vrai artiste, un vrai chef, un vrai communicateur, il aime les gens. Et c'est parce qu'il aime les gens qu'il se décarcasse pour leur donner du produit fini valable et qu'il demande en amont, si vous voulez, parce que bon, le sketch de Raymond DeVos, vous croyez que ça lui passe comme ça, mais c'était des jours et des jours de méditation, d'incubation et tout. Et alors il dit, mais vous... Et c'était bouleversant ce sketch qui se terminait comme ça. En disant, ben voilà, je vous aime, mais c'est pour ça que je fais tout pour vous faire rigoler, quoi. C'est vraiment pas mal. Et je crois que le don de piété consiste aussi à avoir un peu d'humour. Pas trop, il faut quelquefois, l'humour est un peu débraillé, donc on a trop lu Rabelais, d'accord. Donc, faut peut-être pas trop, mais un peu, parce que sinon, ça met un petit grain de sel, quoi. Et c'est vrai que les sens d'humour, vous voyez, par exemple, Benoît XVI en a. Et il le laisse transparaître, donc ce sera trop long de vous raconter. Enfin, je l'ai prouvé à une ou deux occasions. Il a un sens de l'humour. Je peux vous raconter quand même une petite anecdote sympathique. Que ça va être la fin, après. Si après, il y a les questions, on va se coucher. Je l'ai rencontré peu de temps après qu'il fut nommé élu à l'Académie française, enfin, dans la branche... pas des lettres, si vous voulez, mais l'Académie Sciences Morales et Politiques, je crois, donc à l'Institut. Et donc, il avait été recevoir son institution, il prenait le siège de Sakharov, je crois, un dissident soviétique. Et alors, on le félicitait avec les pères qui étaient là, et alors, il nous a dit en souriant gentiment, il dit, oui, mais il est piquant que le grand inquisiteur soit reçu sous la coupole ou a discouru au Voltaire. Le grand inquisiteur, donc lui, qui était chef du Saint-Office, a été reçu avec admiration sous la coupole où s'est illustré Arouet, Voltaire et quelques autres, hein, l'esprit des Lumières françaises. Voilà, j'ai terminé et je réponds à vos questions. Est-ce que vous avez entendu dans l'escalier ? Pas tout, non. Alors, si vous avez une question sur ça, sur le dernier cours ou sur un autre sujet, n'hésitez pas. Mais parlez fort pour qu'on vous entende. La première fois. Il n'y a pas de question idiote, hein, sachez bien. On croit que notre question est saugrenue, mais c'est pas vrai. C'est une excellente question, hein, quelle qu'elle soit.
J'ai une question.
Une question.
Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire. C'est sur le caractère historique de l'Ancien Testament. C'est une conversation avec des amis récemment.
Le caractère.
Je voulais savoir
historique.
Bon, sur la Genèse.
Le caractère historique de l'Ancien Testament, particulièrement le récit de la Genèse.
Et puis sur le déluge ou enfin sur d'autres.
Le déluge. Hein. Alors, c'est une question très très délicate et très intéressante. C'est pas seulement parce que c'est Guillaume qui la pose, mais en réalité, parce que justement, ça nous met Benoît XVI dans ses vœux, ou je ne sais quoi, a mis en garde contre le nihilisme et le fondamentalisme. Alors, il visait le fondamentalisme fanatique, surtout des musulmans, mais il y a aussi un certain fondamentalisme dans les milieux protestants, parce que le terme technique vient de là, qui consiste à lire la Bible mot à mot, en disant tout ce qui est écrit là, c'est comme ça que ça s'est passé mot à mot. Donc le monde a été créé en 7 jours, et puis tout, on a créé d'abord les tels animaux, ensuite tout ça séparé, et donc il y a une lecture très littérale. Alors voilà, là il y a vraiment deux excès dans la lecture de la Genèse. Il y a un excès allégoriste, purement allégoriste, et il y a un excès fondamentaliste. L'excès fondamentaliste, c'est celui que je viens de dire, qui consiste à tout prendre au pied de la lettre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on lit le texte, et on dit, ben voilà, Dieu a déplié les cieux, comme on déplie une toile, il a bloqué de l'eau au-dessus, parce qu'il y a de l'eau dans la cosmologie, il a bloqué de l'eau en dessous, puis après il y a eu un trou, et un trou là, et ça a fait le déluge. Les fondamentalistes, ils pensent ça. Et parce que moi, une fois, il y a une dame qui m'a dit, je suis ennuyé parce que je fais le catéchisme à mes enfants, et mes enfants me disent, la Genèse, c'est pas vrai, parce qu'il y a les diplodocus. Alors je leur réponds, les diplodocus n'ont pas existé. Alors son mari lui a dit, écoute chérie, c'est pas vraiment ce qu'il faut répondre. Ben, attendez, les diplodocus ont existé. Mais alors, une espèce de peur, si vous voulez, s'imaginant que tout ce qui est sorti par la science moderne est des inventions antichrétiennes. Alors donc, il y a une lecture littérale qui est mauvaise, parce qu'elle n'est pas véritable, vous voyez. En fait, il faut lire le texte, comme est dans l'esprit où l'a écrit l'auteur sacré, qui était inspiré par Dieu, et qui est donc, qui communique un message réel et historique dans un sens, parce que ça, il faut le maintenir, il y a une décision de la commission biblique sous Pie XII, et ça a été répété à plusieurs reprises, l'Ancien et Nouveau Testament nous racontent une réalité. Vous voyez ? Et c'est l'intention de Dieu de nous enseigner cette réalité. Mais, premièrement, quelle réalité ? Et deuxièmement, de quelle façon on la raconte ? Alors, la réalité sur laquelle on est instruit, c'est une réalité métaphysique et religieuse, à savoir que Dieu, être spirituel, distinct du monde, a fait le monde à partir de rien, sans avoir besoin d'aucune matière préexistante. Ça, c'est une vérité métaphysique, sans effort sa part. Et qu'il est distinct du monde, qui n'est pas le monde, et on voit bien la cosmologie hébraïque, quand on parle des étoiles, elles sont créées par Dieu, dans le souffle de sa bouche, le souffle, c'est ce qu'il y a de plus spirituel, donc c'est pas comme dans les autres cosmologies babyloniennes, où les étoiles sont divines, sont une parcelle du Dieu, etc. Donc, avec une expression correspondant au style de l'époque, avec les instruments cosmologiques de l'époque, qui sont pris pour ce qu'ils sont, mais pas canonisés comme tels, donc de façon imagée, l'auteur sacré nous raconte une vérité métaphysique et historique, et non pas un cours de paléontologie ou un cours de cosmologie scientifique. Et donc, la Genèse nous apprend ce que je viens de vous dire, elle nous apprend que Dieu a fait le monde comme ça, qu'il en est l'auteur premier, que c'est lui qui a fait l'être des choses, mais elle ne nous dit pas le détail des processus, du développement des choses, de l'éventuelle évolution partielle ou totale à partir de la matière vers le vivant, d'un vivant moins évolué à un plus évolué, etc. Elle ne rentre pas dans ces détails-là. Elle prend, si vous voulez, les expressions comme lorsqu'on dit que Jésus arrêta le soleil. Ça ne canonise pas, contrairement à ce qu'ont cru certains consulteurs de la Congrégation de la foi, ça ne canonise pas le géocentrisme. Hein. Il s'exprimait comme, voilà, le soleil ne bougeait plus, donc on dit Jésus a arrêté le soleil, point. Il n'a pas voulu faire un cours et dire c'est Hipparque et Ptolémée qui ont raison et non pas ou Copernic contre... Non, il pas du tout. Voilà, ce qui est vrai, c'est qu'il a eu le temps de foutre la pile aux autres. Ça, c'est historique. Hein, la journée a duré le temps qu'il fallait pour qu'il écrase les autres. Bon, ça, c'est la vérité historique qu'il nous a rapportée dans ce passage du livre de Josué. Mais c'est pas un cours d'astronomie. Hein. Ça a été le tort de certains consulteurs de confondre un peu les deux niveaux. Parce qu'il faut dire que les attaquants bloquaient aussi les deux niveaux. En prétendant juger aussi de l'écriture. Donc, vous voyez, il y a historicité de la Genèse, mais historicité revêtue du mode d'expression d'un peuple quand même assez frustre, assez primitif, avec une cosmologie très peu développée, qui est prise comme un donné, vous voyez, pour expliquer les choses. On dit le soleil se lève. Si je vous dis le soleil se lève, vous n'allez pas me dire que je suis géocentriste, ou je sais pas. Le soleil se lève. Je le vois, je ne voyais pas, je le vois. Voilà. Oui, et l'écriture, c'est ça. Annabelle a une question.
Oui. Quand on fait du café donc, à des petits-enfants,
oui.
Si on commence par la Genèse,
oui.
Comment leur expliquer notre histoire de Jean et Ève, on leur dit quoi, c'est vrai ou c'est imagé? Ils ne sont pas forcément capables de comprendre.
Ah bah, Adam et Ève, c'est vrai. Enfin, à mon avis, c'est, c'est tout à fait vrai.
Là où, en nous forme de formation, le prêtre qui nous forme à ça, nous dit que c'est un symbole.
C'est-à-dire que là, c'est un point un peu délicat. Moi, je Pie XII a dit, dans l'encyclique Humani Generis, le monophylétisme, c'est-à-dire le fait que toute l'humanité sort d'un homme et d'une femme, doit être tenu parce qu'on ne voit pas autrement comment sauvegarder la doctrine du péché originel transmis à tous les hommes. Donc on ne voit pas comment autrement sauvegarder. Donc une expression prudente, si vous voulez. Mais à mon avis, pour affirmer de façon carrée le fait que les hommes viendraient de plusieurs couples, il faut des arguments qui se tiennent.
Ça veut dire que, par exemple, la pomme.
Ah oui.
Pomme,
bah, la pomme, c'est pas marqué pomme dans l'écriture. Hein.
Oui,
ah oui, non, je voulais dire le péché. Ah, je croyais que vous parliez du fait qu'il y a un homme et une femme.
En fait.
Bah, attendez, c'est qu'il y a un noyau dur qui est révélé, à savoir que moi, personnellement, je ne sais pas définir, mais je crois vraiment que c'est proche de la foi de dire que l'écriture nous explique que toute l'humanité descend d'un homme et d'une femme. Et scientifiquement, rien ne va contre. Il y aurait même, paraît-il, dans les recherches en biologie, l'analyse de séquences, etc., du génome, des choses qui sembleraient plutôt militer en faveur de ça. Ne nous précipitons pas, mais je vois pas bon. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le récit de la chute, alors là, c'est vrai qu'il y a une chute qui a été donc un péché librement commis par des êtres intelligents qui ont décidé d'utiliser le cosmos sans référence à la domination divine dont on vient de parler dans la religion. Donc ils ont fait quelque chose de très mystérieux, qui est symbolisé ou qui est expliqué. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un acte historique de rupture, sur la suggestion de quelqu'un qui semble bien être le démon, par des êtres intelligents, qui choisissent, alors on prend, ce n'est pas une pomme, hein, on parle d'un arbre de vie, d'un arbre de la connaissance du bien et du mal, mais là on peut le prendre dans un sens assez large, assez imagé, mais ils ont fait quelque chose. Le père Joseph de Sainte-Marie Salleron pensait que c'était un péché de magie, c'est-à-dire qu'ils étaient des gens très intelligents, ils ont vu que le monde était beau, il était encore plus beau qu'aujourd'hui, hein, c'est pas peu dire, parce que c'était vraiment le premier soleil sur le premier matin, hein. Et la haute vasque et la haute terrasse, etc., que chante Peggy dans Ève, hein. C'était magnifique, parce qu'il n'y avait pas encore le péché. Déjà le monde il est beau qu'on a envie de mourir, parfois, enfin, quand on est de bon poil, hein. Mais il était encore plus beau s'il n'y a pas le péché. Et ils se sont dit, bah attends, on est trop bien là-dedans. On est trop bien, et à la suggestion de celui qui avait déjà fait ça, qui s'était compu dans sa beauté, ils se sont dit, ils n'ont pas regardé ce que Dieu avait dit, parce que Dieu avait déjà promulgué l'épreuve dans la foi. Il avait dit, bon, vous êtes très beau, vous êtes magnifique, mais vous passerez sans mourir au ciel si vous respectez le fait que vous n'êtes que des tenants-lieux, si vous voulez, que vous n'êtes que des locataires, quoi.
Donc,
ben, il a fait ça parce qu'il est très intelligent, et qu'il veut que le salut sorte de nous. Si Adam et Ève n'avaient pas fait la bêtise qu'ils ont faite, et heureusement qu'ils sont sauvés, on pourra leur dire que toute notre reconnaissance de nous avoir engendrés, mais aussi quand même qu'ils avaient, ils ont raté leur coup là. Hein. Et s'ils n'avaient pas fait ça, on serait mort et on serait passé dans la gloire tout de suite, mais du fait, si vous voulez, qu'ils avaient cette épreuve, ça manifeste la liberté de l'homme. Dieu veut que Adam et Ève soient sauvés par un acte libre de la foi. Et donc ça, ils en ont abusé, quoi. Alors bon, l'arbre ou le fruit, c'est une façon imagée de parler. Il y a eu une tentation, il y a eu une chute, c'est réel.
Alors quand vous présentez ça à des enfants, un enfant, on ne peut pas vraiment comprendre tout de suite ce qu'est le symbole. Donc le danger, c'est de dire, effectivement, c'est passé comme ça, et à 14 ans, ils disent, mais non, mais c'est pas possible, donc on va dans des conneries, on va tout
faire là. Oui. Ben, je demanderai aux frères qui font le catéchisme au petit comment ils font. Parce que j'avoue que je ne me suis jamais posé pour des tout petits. Mais vous savez, l'enfant a plus sens du symbole qu'on ne le pense. Hein. Moi, je pense qu'il faut assez vite, si vous voulez dire les choses. Si vous avez des enfants, ils ont l'âge de raison. Hein. Ils ont 9-10 ans, ceux qui...
On commence des...
Oui, donc... je crois qu'il faut quand même dire pas mal de choses. Oui, Thibault.
Une question que vous avez dit dans un enseignement précédent, que une des premières conditions pour gagner le ciel, c'était de le vouloir.
Les saints innocents ont-ils subi leur sainteté? Ouais. Bah, tous les enfants morts sans baptême, c'est ça. Je crois que si vous voulez, les vocations sont différentes. Hein. Dieu fait que l'être humain a deux périodes dans sa vie. Une période, il a sa raison, Enfin, sauf pour ceux qui n'ont jamais l'usage de la raison. Allez, donc, bon. Mais donc, et là, il est normal que ça lui sorte de lui par sa volonté libre, par son libre choix. Et puis une période où il est petit, et là, il dépend, si vous voulez, davantage de ce qui l'entoure. De ses parents, de sa famille, de la gratuité qui l'entoure. Et donc, les saints innocents ou les enfants morts avec le baptême sans l'âge de raison manifestent davantage cette gratuité. Parce que Dieu ne veut pas faire quelque chose contraire à la nature, il ne veut pas faire un miracle pour qu'ils fassent un acte de raison. Ils sont sauvés par les mérites du Christ, comme être baptisés, si vous voulez. Chacun est sauvé, si vous voulez, selon le type de salut qui peut correspondre à sa nature. Et donc les saints innocents, ils ont témoigné de la divinité du Christ en étant massacrés à sa place, et ils sont les témoins de la bonté de Dieu et de la méchanceté du diable, quoi. Et ils sont au ciel. Mais nous avons le libre arbitre, oui. Parce que je sais bien que le cardinal Bilot, un jésuite, qui voulait emmener très gentiment, qui voulait éviter que les gens soient damnés, disait, il y a beaucoup d'êtres humains qui n'arrivent jamais à l'usage de la raison. Il était gentil quand même, hein, parce que il y a des fous avérés, si vous qui l'ont pas, ça d'accord. Mais quand même. Et donc ça éviterait qu'ils soient damnés, quoi. Si on a l'usage de la raison, on a les moyens de se confronter à l'amour divin. Mystérieusement, parfois, mais...
J'ai une question...
question du chef, du fondateur.
Concernant la souffrance, alors certains saints, par exemple, recherchent la souffrance dans l'imitation du Christ. Certaines souffrances sont issues d'un désordre, type, je sais rien, par exemple un accident de voiture ou autre chose. Et puis il y a certaines souffrances qui sont un petit peu reçues comme des faits de fatalité, type une maladie. Comment l'expliquer en fait, comment pouvoir l'expliquer?
Comment expliquer les différents types de souffrances, hein,
Oui, notamment en fait celles qui où finalement on a l'impression que l'homme n'y est pour rien et le désordre du monde n'y est pour rien.
La maladie par exemple.
Ouais, voilà la maladie, oui. Ou une autre, enfin, mais
là le désordre du monde, ouais, il y a pour quelque chose, hein, parce que je crois que dans le problème du mal, enfin la souffrance c'est un aspect du problème du mal, hein. C'est le problème du mal vécu par un être spirituel, hein. Donc, prenons ça comme ça. C'est, moi je peux souffrir parce que j'ai un esprit qui me rend conscient de ce qui me manque, parce que la souffrance de l'animal c'est très analogique, hein. Enfin, je suis désolé pour les gens de la SPA, et surtout faites pas de mal à votre toutou, hein. Mais c'est pas ce que je dis, j'aime beaucoup les toutous, surtout les groupes. Mais c'est bon. Alors la souffrance, c'est la prise de conscience spirituelle d'une carence, si vous voulez, d'une lésion physique ou mentale ou d'un manque, hein. Alors en effet, c'est quelque chose qui n'a pas de solution spéculative, hein. Parce que de soi, si vous voulez, il faut distinguer la souffrance, si vous voulez, qu'il y a tout un type de souffrance qui est la conséquence d'un certain péché. Par exemple, entre les hommes, beaucoup de choses sont la conséquence du péché originel ou des péchés personnels. Les structures de péché, si vous voulez, le fait que, par exemple, certains types de misère, si vous voulez, qui pourraient être soignés, c'est ce que je disais dans le Père Gardeil, il disait, si on exerçait davantage le don de piété, la question sociale serait réglée depuis longtemps. C'est vrai que si on se considérait davantage comme des frères et sœurs, Ratzinger disait, le pape actuel disait très justement, supprimez le catholicisme et bonjour les dégâts. Tout le monde tape sur l'église, les supprimez-la et vous allez voir, ça ira encore beaucoup plus mal. Donc il y a des souffrances qui découlent de certains péchés. Alors là, on voit mieux d'où elles viennent. Mais quand elles nous arrivent à nous, c'est pas plus agréable. Si moi je suis victime d'une injustice, alors c'est ma réaction par rapport à cette souffrance sur laquelle il faut commencer à réfléchir. Mais que ce soit l'injustice d'un péché d'un homme, ou que ce soit une maladie, une fois que ça arrive dans moi, pouf, c'est moi qui y passe. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, dans un cas, je peux me mettre à gueuler contre un gars qui est injuste, d'accord. Mais ça ne va pas me soulager beaucoup, quoi. Même si j'ai des dommages et intérêts, ce que croient les gens actuellement, c'est qu'avec des procès à tour de rôle, mais bon, c'est sûr qu'il faut rétablir la justice. Moi, je ne suis pas pour prêcher un pardon qui fasse prétérition de la justice. Quand, par exemple, quelqu'un a été assassiné par un assassin, etc., en série, il faut souligner, bien sûr, que la famille, c'est les chrétiennes, pardonnent, mais demande que les autorités exercent la charité minimale de la justice pour protéger les petits. Ça, c'est là. Bon, donc il faut faire attention que la demande de pardon, qui est la réaction à l'injustice qui nous est faite, inclut aussi le désir de la justice. Et en particulier de la justice transcendante du jugement dernier. Mais alors, si c'est une maladie dont on ne voit pas la cause...
Ça peut être une maladie, ça peut être aussi, par exemple, des personnes sinistrées d'un problème en terre, par exemple, ou autre, en fait. Ce n'est pas forcément en fait la conséquence d'un désordre de l'homme.
Oui. Et alors, ça paraît encore plus absurde.
Ça paraît, oui, tout à fait. Ouais. Bah, alors, comment l'expliquer qu'on puisse avoir la souffrance, finalement, dans un monde créé par Dieu.
Comment avoir la souffrance dans un monde créé par Dieu? C'est que, si vous voulez, Dieu avait prévu un monde avec Adam et Ève où la sainteté aurait tenu l'âme de l'homme dans le rapport avec Dieu, le corps uni à l'âme et le monde soumis à l'homme. Donc dans l'univers adamique, il n'y aurait pas eu de souffrance à cause d'une gratuité encore plus grande de Dieu qui aurait évité les souffrances d'ordre comme ça, physique. Mais le péché originel a cassé la soumission par rapport à Dieu, et donc tout a été chamboulé. L'existence d'une sorte d'absurde local, parce que c'est un absurde seulement local, si vous voulez, la souffrance, pour ceux qui la subissent, est une trace d'un absurde plus profond qui est le péché de l'homme, et qui n'a pas de solution spéculative. Et je crois que c'est un tort de vouloir voir en gros, si vous voulez, il faut voir comment chacun réagit en face de ça. Qu'est-ce que celui qui est dans la souffrance peut faire de cette souffrance?
Et donc, en fait, tous les, par exemple, toutes les conséquences, les tremblements de terre ou les airs, des airs glaciaires, seraient la conséquence du péché originel?
Alors là, non, c'est-à-dire que dans la justice édénique, si vous voulez, la prudence d'Adam et de ses descendants aurait été telle que ces catastrophes auraient été évitées. Oui. C'est-à-dire que c'est l'organisation, si vous voulez, l'esprit aurait dominé la matière à un point tel que la matière ne serait pas rentrée dans une... Parce que ça, c'est des collisions accidentelles, si vous voulez. La matière aurait vraiment fait son rôle de serviteur de l'esprit. Mais c'est un autre régime auquel on doit se confronter. Et qui a un effet mystérieux. Je crois qu'il n'y a pas de solution spéculative au problème. Comme vous le posez, il n'y a pas de... Dieu le permet pour qu'à partir de là, si vous voulez, l'homme ait un aiguillon pour se redresser et rentrer dans la croix du Christ, qui est la seule réponse. Et la seule, si vous voulez, la souffrance reste absurde si elle est isolée, mais unie à la charité du Christ, elle devient salvatrice. Et donc le problème est de savoir qu'est-ce que je fais de ma souffrance et qu'est-ce que j'aide les autres à faire de la leur. Une fois à supposer qu'en fait elle existe dans le monde. Mais je pense aussi ce que dit le père Molinier est tout à fait juste, hein, dans un livre qui s'appelle Adoration au désespoir, qui est un livre des années 80, qui je crois tout à fait remarquable. Il dit, nous nous scandalisons du problème du mal, et nous avons raison, et il l'admet, mais il faut d'abord se scandaliser du problème du bien. Le fait que nous éprouvions avec une telle douleur, si vous voulez, le manque qui affecte les gens dans les catastrophes, c'est que nous sentons d'une façon irrépressible que nous sommes faits pour le bien. Et en quelque sorte, ça prouve Dieu, si vous voulez. S'il n'y avait pas un bien infini, à quel titre pourrions-nous protester? S'il n'y avait pas, si vous voulez, l'idée d'une paternité, et s'il n'y avait pas un bien infini, comment pourrions-nous savoir que c'est un mal pour nous de ne pas avoir ci, de ne pas avoir ça? Alors je ne dis pas que ça console complètement, mais c'est vrai que c'est un aiguillon. Parce que très souvent, l'objection à l'existence de Dieu, c'est il y a le mal, donc Dieu n'existe pas. Et je crois que c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de réponse, parce que la question est mal posée. Le mal vient d'un mauvais exercice de la liberté humaine, soit en amont, soit dans notre cas, et une fois que le mal rentre en contact avec moi, qu'est-ce que je fais dans ma liberté? Est-ce que je mets ce mal, cette souffrance, en union avec quelque chose qui est plus fort qu'elle, qui est la charité du Christ, ou est-ce que je m'effondre? Ou est-ce que je me révolte? Mais c'est vrai qu'il y a un choix, et qu'il y a des gens qui se révoltent, et ma foi, il faut les laisser se révolter, enfin, il faut leur dire de ne pas se révolter, mais il faut comprendre qu'ils se révoltent. Il ne faut pas de solution limitive, il n'y a pas de truc qui nous endorme sur nos deux oreillers. Quoiqu'il va bientôt falloir y aller. Peut-être une dernière question, et puis après on fait la quête pour les pauvres moines mendiants qu'il faut nourrir. Non ? Alors merci. Donc le premier mardi de février.
Oui, alors on vous donne rendez-vous le mardi 1er février.
Non. C'est le 7.
7. 7 février.
C'est dans les vacances.
Pendant les vacances scolaires. Et sinon on va faire circuler comme d'habitude un tronc pour ceux qui veulent participer au.